Les gens très minutieux, je vais vous donner des petits tuyaux. Donc son identification militaire est VC-137 Angel, c'est-à-dire qu'on appelle le Angel One, en fait, dans les communications radio-militaires. Et il arrive à l'aéroport à la base d'Andrews, et à 10h30 du matin, il embrasse pour la dernière fois son fils John John Jr. et il lui promet de revenir le lundi pour fêter son anniversaire, puisque John John va fêter ses 3 ans le lundi suivant. L'avion décolle, puis se pose à 14h30 à San Antonio, au Texas, qui est une grande ville du Texas, qui est une ville historique. Et il va passer 2 jours donc à San Antonio, puis de là il ira le lendemain à Fort Worth, qui est une autre ville importante du Texas, c'est une ville où il y a beaucoup de commerçants, d'hommes d'affaires, etc. Et il y va surtout pour ramasser de l'argent pour sa future campagne électorale, hein, soyons honnêtes. Donc le vendredi 22 novembre, c'est le fameux jour fatidique dont nous a parlé notre animateur, la journée commence à 10h05, où Kennedy préside un petit déjeuner au Trade Mart. Alors Trade Mart en anglais, ça veut dire chambre de commerce en fait, hein, de Fort Worth, où il prononcera le dernier discours de sa vie, qui est un discours qui est surtout dédié aux travailleurs, mais qui n'a pas grand intérêt. Et à la fin du petit déjeuner, les représentants de la ville de Fort Worth lui offrent un chapeau Stetson, vous savez, ces grands chapeaux de cow-boy blancs là, du Texas. Et Kennedy, qui ne porte jamais de chapeau par principe, s'exclame « Je le porterai lundi à la Maison Blanche, c'est promis ». À 10h30, le cortège du président donc quitte la chambre de commerce et rejoint l'aéroport militaire de Fort Worth, qui s'appelle la base de Carswell. Là, il s'envole dans Air Force One, qui décolle pour le vol le plus court de son histoire. Pourquoi ? Parce que pour des raisons de sécurité, l'avion en fait ne va parcourir en fait que 50 km, parce que Dallas est tout près de Fort Worth, mais pour des raisons de sécurité, on a décidé que le cortège présidentiel n'emprunterait pas la route, et on préfère le faire voler pendant 13 minutes sur un tout petit vol jusqu'à Dallas. Alors, durant la descente de l'avion, le président Kennedy glisse au gouverneur Connally, qui l'accompagne déjà dans l'avion. La chance revient, nous allons avoir du soleil, parce qu'il faut préciser qu'il pleuvait comme vache qui pisse sur le Texas depuis 3 jours, et que ce jour-là, il y a un ciel bleu radieux, et que ce jour de novembre est pratiquement aussi chaud qu'un jour de septembre, et que donc les conditions sont absolument idéales. C'est un jour merveilleux. Alors, pendant ce temps-là, pendant que l'avion amorce sa descente vers Dallas, à Dallas même, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'à 10h30, Jack Ruby, le fameux petit chef mafieux tenancier d'une boîte de nuit, mais en fait qui assure le support logistique des différentes équipes de tueurs à Dallas, accompagné de Ladislas, c'est-à-dire le compagnon de Max, vous savez, le tireur dont je vous ai parlé dans les équipes Action, sur le monticule Herbeux, arrive donc au pied du monticule Herbeux avec un petit Ford vert pick-up, où il dépose Ladislas, qui porte carrément dans un étui, de façon très ostensible, un fusil de tireur d'élite, et qui monte vers la palissade pour aller s'installer. Alors là, on a beaucoup de témoins, hein, comme Bowers, Hoffman, Anne Mercer, etc. C'est un fait indiscutable. À 11h40, l'avion de John Kennedy se pose sur l'aéroport de Dallas, qui s'appelle l'aéroport de Love Field. Ça veut dire le champ de l'amour. Non, évidemment mal adapté à la situation. Donc, à 11h40, John Fitzgerald Kennedy, qui est donc le 35e président des États-Unis, apparaît et tout le monde l'applaudit, etc., parce qu'il y a une foule immense qui l'attend à l'aéroport. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'a plus que 50 minutes à vivre. Et en sortant de l'avion, il se tourne vers Jackie Kennedy, sa femme, et lui dit « Maintenant, nous arrivons au pays des fous », ce qui était fort bien vu. Il faut préciser que dans les jours précédents, la presse de Dallas, qui est d'extrême droite, avait publié un message de bienvenue en pleine page, sur la première, pas la première, c'est peut-être la deuxième ou troisième page du journal, qui occupait toute la page et qui était fait comme un faire-part de décès, comme un avis de décès, encadré de noir, où il disait « Bonjour, monsieur le président, la ville de Dallas vous accueille, etc. » Enfin, vous voyez l'ambiance. Bon. Et alors à ce moment-là, au bas de l'escalier, il y a le vice-président Lyndon Johnson qui l'attend au bas de l'escalier de l'avion et qui est accompagné du maire de Dallas, Earl Cabell. Alors il faut savoir que ces deux gens sont impliqués dans le complot, hein, pour vous montrer à quel point ils sont fauchetons. Et alors Johnson s'avance vers Jackie Kennedy, l'épouse de Kennedy, et lui offre un bouquet de roses rouges. Alors, on peut se poser la question, pourquoi des roses rouges? Il y a eu beaucoup de théories et de thèses là-dessus, mais qui sont de la foutaise. En fait, pourquoi les roses étaient rouges alors qu'elles devraient être jaunes? Parce que l'emblème du Texas, c'est la rose jaune. Or, on lui offre un bouquet de roses rouges. C'est simplement parce que il n'y avait plus aucune rose jaune, disponible à Dallas, parce qu'elles avaient toutes été placées dans la chambre de commerce de Dallas où Kennedy devait se rendre après avoir traversé la ville en cortège. Donc, comme il restait que des roses rouges, Lyndon Johnson lui offre des roses rouges. John et Jacqueline Kennedy donc s'offrent un premier bain de foule, puisqu'il y a une foule enthousiaste qui les attend, alors à l'aéroport, donc ils se promènent dans la foule. Et alors pendant ce temps-là, le Secret Service, c'est-à-dire le service de protection du président, en profite pour vérifier que tout le cortège est prêt, parce qu'un cortège présidentiel aux États-Unis, je peux vous dire que c'est quelque chose. Alors je vais vous résumer quand même le cortège, comme ça vous pourrez bien visualiser ce qui va circuler dans les avenues de Dallas, juste avant et pendant l'attentat. Alors, en tête du cortège, on a à 400 mètres devant le cortège, une première voiture pilote qui sert à voir si la circulation est dégagée ou s'il n'y a pas une menace ou quelque chose. Et vient ensuite une voiture décapotable qui, dans laquelle prennent place Jess Curry, qui est le chef de la police de Dallas, qui est accompagné d'un agent du Secret Service qui s'appelle Lawson, d'un autre qui s'appelle Sorrell, et du shérif du comté, parce que vous savez qu'aux États-Unis, on a les chefs de la police et les shérifs, hein, qui s'appelle Bill Decker. Derrière la voiture donc du chef de la police de Dallas, décapotable, il y a une voiture bleue immense qui est la Lincoln Continental de Kennedy. Alors la Lincoln Continental de Kennedy est décapotable parce que Kennedy, dans ses voyages, quand il faisait beau, refusait d'avoir un toit, même transparent, par balle. Il voulait toujours être à l'air libre pour avoir un contact plus direct avec la foule. Et alors donc, cette Lincoln, donc c'est une voiture qui comprend un moteur V8 surpuissant qui lui permet d'accélérer à 180 km/h en quelques secondes. C'est la voiture du président, quand même, elle n'est pas ordinaire. Et alors, donc, l'agent du Secret Service William Greer, dont j'ai déjà parlé au début de l'émission, qui est un traître en fait. À sa droite, on a un autre traître qui est un agent du Secret Service qui s'appelle Roy Kellerman. Ces deux hommes, n'oubliez pas, visualisez bien la chose, font partie du complot. Hein, ils ont un rôle très important à jouer. Derrière, on a deux petits sièges rabattables, des strapontins si vous voulez, sur lesquels prennent place, en fait, Nelly et John Connally, c'est-à-dire le gouverneur du Texas et sa femme. Alors là, il y a un événement très important qui se produit. C'est que, à l'origine, c'était le sénateur Yarborough, qui est un ami de Kennedy, qui est à l'aile gauche du Parti démocrate, qui devait être assis avec sa femme devant lui, donc sur ses strapontins. Et au dernier moment, mais vraiment à la dernière minute, avant de monter dans la voiture, Kennedy a une idée de génie. Il se dit, mais au fond, si je dis à Connally de s'asseoir dans ma voiture, ça voudra dire qu'on s'est réconcilié politiquement. Et c'est très très payant du point de vue électoral. Donc il dit à John Connally et à sa femme, venez avec moi dans la voiture. Et John Connally refuse, parce que John Connally fait partie du complot et il sait qu'on va tirer sur la limousine de Kennedy. Et Kennedy est obligé de s'engueuler littéralement avec John Connally. Les témoins disent que l'engueulade a été très courte, elle a duré une minute, mais elle a été terrible, c'est vraiment, il hurlait. Hein. Et Kennedy a dit, j'ai pas les phrases au mot près, mais enfin je vous donne le sens général, il dit, écoutez, je suis le président des États-Unis, je vous donne l'ordre de monter dans ma voiture. Et quand le président des États-Unis vous ordonne quelque chose, vous ne pouvez pas refuser. Sinon, ce serait hautement suspect. Donc, Connally, tous les témoins disent qu'il était pâle, il avait certains disent qu'il avait la lèvre qui tremblait, monte avec sa femme, qui elle est détendue parce qu'elle se doute de rien, évidemment, et est obligé de s'installer devant les Kennedy. Donc, vous visualisez bien, à l'avant, vous avez le chauffeur et le garde du corps. Derrière, sur deux sièges rabattables, vous avez Nelly et John Connally. Et ensuite, sur la grande banquette arrière, vous avez Kennedy qui s'installe à droite et sa femme, Jackie Kennedy, qui s'installe à gauche. Voilà. Alors, derrière la voiture de Kennedy, on a ensuite une vieille Cadillac 1956 décapotable, c'est une énorme bagnole décapotable, dans laquelle vous avez quatre agents du circuit de service assis sur les sièges, plus quatre agents sur les marchepieds, à gauche et à droite de la voiture. Derrière, vous avez de nouveau une Lincoln, un peu comme celle de Kennedy, mais un peu plus petite, de couleur blanche, décapotable, qui abrite en fait le vice-président Johnson, son épouse, le sénateur Ralph Yarborough, qui du coup, comme il n'est pas dans la voiture de Kennedy, s'est mis dans celle de Johnson, et un chauffeur texan, ainsi que l'agent du Secret Service, Rufus Youngblood, pardonnez ma prononciation, qui est en fait aussi dans le coup, c'est-à-dire qu'il sait qu'on va assassiner Kennedy. De même que pour la voiture de Kennedy, cette voiture du vice-président est suivie avec de nouveau 8 agents dedans. Ensuite, il y a 4 voitures d'officiels, je passe sur les détails, des notables de la ville. Et enfin, on a derrière ces 4 voitures d'officiels, la voiture de l'amiral Berkeley. Et l'amiral Berkeley, c'est en fait le médecin personnel du président Kennedy. Et tous les témoins disent que Berkeley n'arrête pas de pester, parce qu'il dit que c'est scandaleux qu'on l'ait placé à l'arrière, ce qui est contraire à toutes les règles de sécurité présidentielle, puisque normalement, il doit être immédiatement à proximité, devant ou derrière la voiture du président, en cas de pépin. Donc là, comme par hasard, ce jour-là, on l'a passé loin derrière le cortège, hein, avant-dernier. Et ensuite, derrière, on a un immense autocar, genre Greyhound, vous savez, ces autocars routiers américains, qui contient en fait toute la presse, parce qu'on a empilé toute la presse dans un autocar. Bon. Alors, 11h50, le cortège quitte l'aéroport et fait toute la traversée de la ville Dallas, depuis la banlieue jusqu'à la sortie de l'autre côté de la ville, qui est Dealey Plaza. Alors Dealey Plaza, pour vous donner un ordre d'idée, vous imaginez, quelle que soit la ville où vous habitez, vous imaginez une place qui est à la sortie d'une ville et où commencent des bretelles autoroutières. Voilà à quoi ressemble Dealey Plaza. Donc ils vont avant traverser toute la ville. Et alors, Kennedy est très surpris parce que ses conseillers lui avaient dit, vous savez, les Texans, hein, ils vous aiment pas, regardez la presse qui vous fait des faire-part de décès en guise d'articles de bienvenue, etc. Et Kennedy s'aperçoit qu'il y a une foule immense qui surprend même tous les journalistes, même de la presse internationale, qui voit que la foule a des pancartes, on vous aime, soyez les bienvenus à Dallas, etc. Ce qui fait finalement que le petit peuple de Dallas, en fait, montre qu'il adore Kennedy et l'accueille très bien.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Alors, donc le cortège s'ébranle à travers la ville, ça va durer un certain temps, durer un peu plus d'une demi-heure. Pendant ce temps-là, il se passe d'autres choses, c'est-à-dire qu'à 12h, donc à midi, Oswald, qui s'est fait employer quelques mois avant dans le dépôt de livres scolaires, où il travaille depuis 3 mois, reste au 6e étage alors que tous ses collègues descendent pour aller voir le cortège ou manger en ville, pour la pause de midi. Oswald dit non, merci, moi je reste ici. Et dès que tous ses collègues sont partis, c'est-à-dire que l'immeuble se vide complètement ou quasiment, il fait descendre du 7e étage, où l'équipe action qui va se positionner dans cet immeuble avait pris place avant, et ils descendent donc du 7e étage au 6e étage pour commencer à s'installer pour le tir. Et à ce moment-là, Oswald, ensuite, à 12h03, descend au premier étage, à côté de la buvette, comme je vous l'ai expliqué, pour surveiller l'escalier, après avoir bloqué les ascenseurs. À 12h15, Jacques Ruby, qui était déjà venu donc à 11h30 déposer Ladislas avec son fusil, est vu par les témoins à pied. Alors on ne sait pas avec quel véhicule il est venu, mais enfin on le voit à pied sur le parking derrière la palissade, sur le tas herbeux, sur le monticule herbeux, livrant un second fusil aux équipes actions. Pendant ce temps-là, sur Elm Street, alors Elm Street, c'est une rue qui est juste avant Dealey Plaza, c'est-à-dire que c'est la rue qui débouche au fond sur Dealey Plaza. Alors sur Elm Street, il y a un membre du groupe camouflage qui n'a pas été identifié, qui simule une crise d'épilepsie pendant 2 minutes. Alors pourquoi il a fait cette crise qui n'a rien de naturel? C'était pour faire diversion pendant que les équipes action 1 et 2 des deux immeubles qui sont sur Elm Street, qui donnent sur Dealey Plaza, pendant que dans ces deux immeubles, les équipes action commencent à ouvrir les fenêtres et à se mettre en position. Parce que ça, il ne faut pas qu'on le remarque depuis la rue. Et alors la meilleure méthode, c'est une méthode classique des professionnels dans ce domaine, c'est de faire une opération de diversion dans la rue. Et là, ils ont choisi une crise d'épilepsie très spectaculaire, où le type bave dans tous les sens, etc., et se tortille. Et à ce moment-là, une ambulance, qui en fait une fausse ambulance, vient le chercher tout de suite, en 2 minutes. Et on découvrira que cette ambulance ne correspondait à aucune ambulance connue de la ville et n'est jamais allée à aucun hôpital, ce qui est la preuve qu'il s'agissait d'une opération de diversion. Sur le tas herbeux, les équipes action 3 et 4 se mettent en place, où les attendent déjà leurs fusils, derrière la palissade en bois. À 12h20, sur Harwood Street, alors Harwood Street, c'est une rue qui est à peu près à 800 mètres en gros de Elm Street dans la ville, et où passe le cortège, près du virage de Main Street, qui est la dernière rue avant Elm Street, un agent du Secret Service qui avait protégé Kennedy à Fort Worth et à Austin les jours précédents, qui donc aurait dû, en toute logique, être dans la voiture de protection derrière celle de Kennedy. Or, il n'y est pas. Et il n'y est pas pour une raison très simple, c'est que comme plus de la moitié des membres de la voiture de protection et le chef de la protection de Kennedy font partie du complot, le chef s'appelle Emory Roberts. Ils lui ont dit, attention, demain il va se passer quelque chose contre Kennedy, est-ce que tu es dans le coup? Et lui, il dit, ah non, en aucun cas. Et à ce moment-là, il est retiré le matin même de la protection de Kennedy. Et alors, lui, il a compris que comme il va y avoir un meurtre contre Kennedy, et que lui est fidèle à son président, il essaye d'intercepter le cortège de Kennedy dans ce virage, et il court vers la voiture de Kennedy, en prononçant la phrase suivante, je cite les journalistes présents, « Stop, je dois vous le dire », mais il n'a pas le temps de terminer de sa phrase parce que les types du Secret Service qui sont derrière la voiture de Kennedy le plaquent au sol et d'autres témoins, dont un facteur qui s'appelle Robertson, le verront après dans une rue voisine être emmené dans une voiture civile, c'est un break Nash Rambler blanc, dans lequel il sera embarqué, on sait qu'il sera abattu dans ce break. Et cet agent s'appelle Dennis R. Halterman. Alors retenez cet événement, parce qu'il aura une importance énorme après l'assassinat de Kennedy, vous verrez pourquoi. À 12h32, le cortège arrive sur Main Street. Alors Main Street, c'est la dernière rue, la dernière avenue qui descend dans la ville, avant de virer à angle droit, vers la droite, vers une rue qui s'appelle Houston Street, qui elle-même vire vers une petite rue qui s'appelle M Street, qui elle donne sur Dealey Plaza. Bon, c'est difficile à visualiser, je sais, mais là, soit vous lisez mon article, soit vous consultez des livres sur Kennedy, où il y a toujours une photo de la ville, pour comprendre comment c'est. Alors donc le cortège arrive sur Main Street, et l'agent de protection Clint Hill. Alors Clint Hill, c'est un agent de protection qui a été rajouté à la demande de Jackie Kennedy à l'aéroport au dernier moment, dans la voiture qui suit la voiture de Kennedy. Alors cet agent Clint Hill est très important, parce qu'en fait, il sera l'homme qui va réagir au moment de l'assassinat en sautant sur la voiture de Kennedy pour essayer de le protéger. Pourquoi ? Parce que Clint Hill n'est pas un garde du corps de Kennedy, c'est un garde du corps de Jackie Kennedy, de sa femme. Et c'est elle qui a demandé donc qu'il soit dans la voiture au dernier instant. Il n'était pas du tout prévu au programme par les comploteurs. Donc, Clint Hill, qui fait donc partie du cortège, tout d'un coup, saute de la voiture et va vers la voiture de Kennedy devant. Il saute sur le marchepied arrière pour assurer son boulot de garde du corps. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Emory Roberts, le chef des gardes du corps qui est dans la voiture suiveuse, lui donne ordre par radio de rejoindre la voiture et de ne pas rester sur la voiture de Kennedy. Alors maintenant, nous allons passer à l'exécution proprement dite. Alors là, suivez bien parce que ça va être palpitant et là, j'ai fait un découpage seconde par seconde pour que vous compreniez bien ce qui se passe. 12h25, la fin de Main Street et le début de Dealey Plaza approche. La coordination radio dont nous avons parlé ordonne aux équipes action de mettre leurs armes en condition nominale de tir. C'est-à-dire qu'en gros, comme c'est organisé de façon militaire, si vous voulez, sur toutes les fréquences de chaque tireur, les coordinateurs leur disent, par exemple, je ne sais pas les phrases prononcées, mais on peut les déduire à partir des pratiques militaires actuelles, leur donnent un ordre du style arme en condition verte, par exemple, c'est-à-dire condition prête à tirer. À ce moment-là, que font les snipers, les tireurs ? Généralement, ils commencent non pas à épauler leur arme, mais à la tenir soit verticale, en position d'épaulement, soit en repos sur le bord de la fenêtre. C'est-à-dire qu'ils peuvent en une seconde viser et verrouiller leur zone de tir. 12h29. La Lincoln s'engage donc sur le court tronçon de Houston Street, avant de tourner dans le virage sur Dealey Plaza. Et à ce moment-là, c'est là que commencent les choses sérieuses. Vous avez les tireurs d'élite, je vous rappelle leurs noms, Yito Del Valle, David Sanchez Morales, Max et Roscoe White, qui verrouillent leur zone de tir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans les films, au cinéma, vous voyez un type qui vise avec sa lunette et avec son fusil en suivant la cible. Ça, c'est du cinéma, parce que n'importe quel tireur d'élite vous dira que c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Un tireur d'élite, ce qu'il fait, c'est qu'il met son fusil dans la zone où il veut tirer. Il bloque son fusil, il ne bouge plus, et c'est pour ça qu'il a toujours un assistant qui lui regarde si c'est loin avec des jumelles, si c'est prêt à l'œil nu, et qui lui dit, par exemple, alors c'est pas forcément les phrases prononcées, mais enfin je vous donne des types de phrases, je me suis renseigné auprès de snipers de l'armée, c'est par exemple, il va dire rouge, rouge, rouge chaque seconde, ça veut dire que la cible n'est pas encore dans le champ de la lunette. Et quand il sait que la cible va arriver dans le champ de son collègue, tireur, il va dire vert, et à ce moment-là, le tireur doit voir apparaître la voiture dans son champ. C'est comme ça que ça se passe. Mais il peut y avoir d'autres mots utilisés, mais enfin, le sens général, c'est ça. Alors donc, ils verrouillent leur zone de tir. C'est-à-dire, vous avez bien compris, ils braquent leurs lunettes, leurs fusils, dans une zone qui est la zone où ils vont appuyer sur la détente. Et ils attendent que la cible rentre dedans. Et alors là, les observateurs vérifient que l'écart entre la voiture du chef de la police de Dallas, qui est devant celle de Kennedy, et celle de Kennedy, est suffisant. Alors là, on sait par l'analyse des films qu'il y avait un écart de 20 secondes, ce qui était idéal, parce que ça veut dire que la voiture de tête ne va pas cacher la voiture cible qui est derrière. C'est très important. Parce qu'un attentat peut rater à cause d'une chose aussi bête que ça. 12h29min15s. La Lincoln ralentit pour virer sur Elm Street. Le chauffeur, William Greer, est extrêmement tendu parce qu'il sait qu'il pénètre dans ce qu'on appelle la killing zone, en anglais, ce qui signifie la zone de tir. 12h29min20s. La voiture fait un léger écart, parce que le chauffeur est trop tendu, justement, et vient presque toucher le trottoir opposé, c'est-à-dire sur la droite, qui c'est le trottoir qui est devant l'immeuble du dépôt de livres scolaires, ce qui n'était pas prévu au programme parce qu'au contraire, il devait être contre le trottoir de gauche. Et il se met contre le trottoir de droite parce qu'il est tellement tendu qu'il fait une fausse manœuvre. Et pour les équipes action, c'est catastrophique. Et à ce moment-là, les équipes action replacent à toute vitesse Kennedy dans la ligne de mire, ce qui est très difficile, je peux vous dire. Ça n'a rien de facile. À droite, sur le TARB, un peu plus loin, on a un monsieur qui s'appelle Zapruder, Abraham Zapruder, et qui déclenche sa petite caméra 8 mm Bell & Howell. Et vous verrez que c'est très important parce qu'il va réaliser le film du siècle. Sous le panneau routier, parce qu'à la sortie de cette rue et à l'entrée d'Ile Plaza, il y a un grand panneau, vous voyez, d'autoroute qui est au-dessus de votre tête quand vous passez en dessous, où il y a deux panneaux, et qui indique en fait l'autoroute de Stemmons, c'est-à-dire le Stemmons Freeway. Et sous ce panneau, près du poteau, sur le trottoir, il y a notre fameux homme au parapluie accompagné de son garde du corps cubain, là, de son compagnon cubain, donc le coordinateur de tir. Et à ce moment-là, et ce n'est pas de l'humour noir, je sais que c'est sinistre quand on le dit, mais je suis là pour vous donner la vérité historique, pas pour vous faire plaisir. À ce moment-là, Nelly Connally, dans la voiture de Kennedy, juste au moment où ils arrivent dans ce virage, ils vont rentrer sur Dealey Plaza, se tourne vers Kennedy et lui dit, alors ce témoignage est donné par Nelly Connally elle-même, par Jackie Kennedy et par le gouverneur Connally lui-même. Donc vous voyez, c'est des choses, là ce que je vais vous dire, même si ça vous paraît incroyable, tout ce que je vais vous dire maintenant est prouvé chaque fois par des preuves absolues et irréfutables, on n'est pas dans les hypothèses. Donc Nelly Connally se tourne sur son siège légèrement et dit à Kennedy, au président Kennedy, maintenant vous ne pourrez plus dire que Dallas ne vous aime pas, parce que c'est la fin de la traversée de la ville. Après ils vont sur la bretelle autoroutière vers la chambre de commerce. 12h29min25s, le président Kennedy répond avec un grand sourire, non, ça on ne pourra plus le dire. la fin de sa phrase sera coupée par l'explosion du premier tir. Vous voyez à quel point c'est du mont noir. 12h29min30s. Max tire le premier du Taherbeux, Grassinol. Sa balle traverse le pare-brise blindé de la Lincoln et la gorge du président Kennedy. À cet instant, le président Kennedy monte les bras et met les mains à sa gorge en une fraction de seconde. C'est pas voulu, c'est un réflexe simplement nerveux. Quelques centièmes de seconde plus tard, donc c'est à l'oreille, on a l'impression que c'est un seul tir, mais en fait c'est deux tirs. Donc quelques centièmes de seconde plus tard, de l'autre côté, c'est-à-dire dans le dos de Kennedy, derrière, de l'immeuble du Daltex Building, dont je vous ai parlé tout à l'heure, David Sanchez Morales tire à son tour et il atteint Kennedy dans le dos, au bas de l'omoplate droite. La balle a traversé avant le dossier du siège, donc elle est ralentie, ce qui fait qu'elle ne traversera pas le corps de Kennedy, elle se perdra dans son dos. L'autopsie montrera qu'elle se perd à peu près à 27 mm à l'intérieur du dos. Et Morales, qui est le plus rapide de tous les tireurs, il était réputé comme étant d'une vitesse phénoménale au tir, il réarme donc en une fraction de seconde, pendant que Kennedy porte les mains à sa gorge, donc comme je vous l'ai dit. Et à ce moment-là, Kennedy parle. Ça, c'est une chose qui est peu connue. Là, je vous donne une chose, je crois, qui est peu connue des gens. C'est qu'à ce moment-là, Kennedy, en portant les mains à son cou, crie « Mon Dieu, je suis touché ». À ce moment-là, Morales tire une deuxième fois. Cette fois, la balle frôle l'aile arrière gauche de la Lincoln, et comme elle est blindée, elle rebondit sur l'aile, elle est déviée, elle remonte un peu dans sa trajectoire, et elle va toucher le pont qui est de l'autre côté de Dealey Plaza, devant la voiture du président. Et en touchant le pont ferroviaire, elle va arracher un bout de béton qui va blesser à la joue un témoin qui s'appelle James Tagg. Dans la voiture du Secret Service, en fait, il y a quand même un agent qui réagit instantanément dès le premier tir, qui s'appelle John Reddy, il ne fait pas partie du complot, c'est-à-dire qu'il fait partie de la moitié des agents, des 8 agents qui ne sont pas dans le coup. Et lui, il essaye d'ouvrir sa portière pour sauter vers la voiture de Kennedy, et on le voit sur les films. Seulement, le chef qui est dans la voiture, le chef Emory Roberts, lui ordonne de ne pas bouger, ce qui vous montre à quel point il est complice. 12h29min32s. Lito Del Valle, dans l'immeuble du School Book Depository, tire au jugé sur la Lincoln. Pourquoi au jugé? Parce qu'à cause de l'écart qu'a fait la voiture, dans le virage, c'est une catastrophe pour lui, parce qu'il y a un arbre qui lui cache la voiture partiellement. Et donc, il sait que comme les tirs vont se dérouler en quelques secondes, il faut qu'il tire quand même. Et donc, il tire au hasard, pratiquement. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il blesse le sénateur Connally, ce qui est une catastrophe, vu que lui fait partie du complot. Et Connally se prend une balle dans le dos, qui ressort, donc la balle rentre par le dos, à peu près au milieu du dos, et ressort, en fait, à côté du téton du sein droit, vous voyez, en faisant un trou qui fait à peu près, selon les médecins qui l'ont opéré après, c'est un trou qui fait à peu près 30 mm de diamètre. C'est une vraie petite soucoupe. Donc c'est une balle meurtrière et elle lui explose le poumon. Presque en même temps, Roscoe White, qui lui est derrière la palissade avec Max, tire du Grassinol et sa balle rate sa cible et pulvérise le haut du panneau routier de Stemmons sous laquelle la voiture passe. Parce qu'il n'a pas encore un bon angle du tir à cause de la déviation de la voiture. Donc il touche le haut du panneau routier. Au même instant, Morales, qui a de nouveau réarmé, c'est un rapide lui, hein, manque son troisième tir, vous voyez quand on réarme trop vite, et touche le poignet de Connally, du gouverneur Connally. Alors on voit d'ailleurs sur les films que Connally a le poignet explosé, la balle traverse son poignet, détruit le nerf de l'appréhension, vous savez le nerf qui permet au poignet la main de se plier, et la balle est déviée par les os du poignet et va descendre à l'intérieur de la voiture sur le fémur de Connally, en lui explosant le fémur à 32 mm au-dessus du genou. Avant de s'évanouir, parce que la douleur est atroce pour le gouverneur, c'est très très douloureux comme type de blessure, le gouverneur, donc Connally, hurle littéralement, il est complètement terrifié, « Oh non, 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 mon Dieu, ils vont nous tuer tous !» Je cite ces paroles dites par sa femme, hein, qui est le témoin. À ce moment-là, Frank Sturgis, qui est le vrai commandant des tirs, depuis l'immeuble du County Records, est obligé de hurler dans son micro, alors là j'improvise ce qu'il dit, mais enfin c'est probable qu'il a dit ça, il hurle quelque chose comme « B, B, B », ce qui veut dire « plan B ». C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que les premiers tirs sont complètement foireux, ils ont blessé le président, mais ils ne l'ont pas tué. Et à ce moment-là, tous les tireurs entendent ça dans leur oreillette et les coordinateurs de tir. Et donc l'homme au parapluie, à ce moment-là, monte et descend trois fois son parapluie très rapidement pour signaler au chauffeur Greer que les premiers tirs ont raté à cause de sa fausse manœuvre et de la vitesse excessive de sa voiture. Et donc, dans ce cas-là, il faut impérativement qu'il arrête immédiatement sa voiture. Et tous les films et les photos qui ont été prises ce jour-là prouvent que Greer freine à mort avec la voiture. On voit les phares s'allumer. Il arrête la voiture, ou presque, enfin elle est vraiment au ralenti, au pas. Et alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une preuve absolue de la complicité de Greer et du garde du corps qui est à côté de lui. Pourquoi? Parce que les instructions du Secret Service sont formelles. S'il y a le moindre événement suspect, même pas un tir, même autre chose, l'instruction est d'accélérer à la vitesse maximum de la voiture et de sortir de la zone. Or, Greer fait exactement l'inverse. Il freine. Et il faut savoir que le garde du corps qui est avec lui reste immobile, raide. Ça, c'est probablement pour ne pas prendre des balles perdues, pour que les tireurs puissent cadrer le président sans le toucher. Et ne réagit absolument pas. Et donc, non seulement Greer arrête la limousine, mais en plus, il a le culot de se retourner, d'appuyer sa main sur le dossier et de regarder Kennedy pour voir le tir final. Pour voir le moment où il doit accélérer. Et alors, en même temps qu'il freine, dans la Lincoln, Kennedy, lui, s'est effondré sur l'épaule de sa femme, Jackie. Et Connally, lui, s'est effondré sur le dos, sur les genoux de sa femme, dans la voiture. Parce qu'ils sont déjà très gravement blessés. 12h29 minutes 34 secondes. Donc, on voit les feux de freinage, comme je vous l'ai dit, s'allumer. Hein, et Greer qui se retourne. 12h29 minutes 35 secondes. Deux détonations, espacées de quelques dixièmes de seconde, résonnent sur Dealey Plaza. La première est un double tir de Lito Del Valle et de Morales, depuis les immeubles. Leurs balles manquent Kennedy. En fait, elles vont percuter respectivement le gazon de Dealey Plaza, ça c'est celle de Lito, et celle de Morales, en fait, va s'enfoncer dans le montant supérieur du pare-brise, au-dessus du chauffeur. Juste au-dessus, vous voyez, du, comment on appelle ça, du rétroviseur. Il y a une petite armature chromée, vous voyez, sur la voiture présidentielle, et la balle va s'enfoncer pile dedans. Il a raté de très très peu la tête de Kennedy. Et tout de suite après, à quelques dixièmes de seconde, résonne une deuxième détonation qui est un double tir qui vient du TARB. Et ce tir est le plus connu de l'histoire et le plus connu de tous. Le premier tir est fait par Roscoe White, qui tire avec sa Winchester 30-06. Il touche le président entre la nuque et l'oreille droite. Vous voyez, c'est l'arrière de votre oreille, un peu au-dessus. La balle, en fait, traverse donc, parce que Kennedy, en fait, a la tête penchée, hein, il faut préciser. Donc c'est un tir qui vient de côté, si vous voulez. Il ne vient pas de devant, en fait. Il vient de côté, légèrement, pas en arrière, mais enfin presque, disons en latéral. Et donc ce tir, en fait, rentre par un emplacement entre l'oreille et la nuque et ressort par le sommet du crâne qui explose littéralement. Alors pour ceux qui auront le souhait de lire mon article, vous verrez des photos traitées par ordinateur, d'une qualité que vous n'avez jamais vue d'ailleurs, parce qu'avec les moyens modernes, on a pu améliorer 200 fois la qualité des images, où vous voyez la cervelle qui suit la trajectoire de la balle. C'est la preuve absolue que tout ce qu'ont dit les auteurs jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y avait une balle de face, est faux. En réalité, il y a bien eu une première balle arrière qui rentre par derrière l'oreille et ressort par le sommet du crâne en l'explosant. J'en apporte la preuve photographique et balistique absolue dans l'article, hein, je le précise, pour ceux qui seraient intéressés. Et immédiatement après, selon les spécialistes, entre 2 et 4 centièmes de seconde après, donc c'est presque simultané, vous avez en fait Max qui lui tire son coup de feu, qui lui va pénétrer par la partie du front qui est juste à la limite de la tempe. C'est-à-dire que, vous voyez, au-dessus de votre œil droit, vous avez une zone sur le côté de l'œil qui est la courbure de votre crâne sur le front et qui est déjà presque la tempe. Et c'est là que la balle va rentrer. Et elle va ressortir par l'arrière du crâne, très près de la nuque, vous voyez, c'est-à-dire le bas du crâne à l'arrière, où elle va arracher un morceau de 13 cm de diamètre. C'est énorme. Alors ça ne donnera pas une giclée visible de cervelle sur les films, parce que toutes les images de cette giclée ont été retirées des films par les services secrets américains après l'attentat. Donc tous les films que vous avez vus sont en fait des films trafiqués, je vous l'expliquerai après. Donc cette projection, cette deuxième projection de cervelle, la première va par vers le haut et vers la gauche de la voiture. La deuxième part vers le bas et aussi vers la gauche et inonde littéralement de cervelle et de sang le motard Hargis qui est juste sur l'aile gauche de la voiture, qui est complètement inondé de sang à un point tel qu'il croit qu'il s'est pris une balle. Mais en réalité, il s'aperçoit que c'est le sang et la cervelle du président. Et à ce moment-là, l'os du crâne lui retombe mollement sur le capot à l'arrière. Et à 13h29 minutes 36 secondes, Jackie Kennedy se lève instantanément et se retourne pour essayer de ramasser ce morceau d'os sur le capot arrière. Et ceux qui ont vu les photos de l'attentat ou les films d'attentat la voient se relever à cause de ça. Parce qu'on a dit souvent qu'elle se levait pour tendre la main à Clint Hill qui lui a sauté de la voiture présidentielle du marchepied et court vers la voiture parce qu'il a compris qu'on est en train d'assassiner le président des États-Unis. Mais en fait, elle ne lui tend pas la main, elle cherche à ramasser le morceau d'os sur le capot. Et Hill, en fait, va repousser Jackie Kennedy en une fraction de seconde sur le siège parce qu'elle risque de tomber et de se tuer sur la chaussée ou d'être exposée à d'autres tirs s'il y en avait. Donc Clint Hill, en même temps, saute sur l'arrière de la voiture. Et quand on voit les photos et les films, c'est très spectaculaire parce qu'il a fait, à mon avis, il a battu le record du 100 mètres ce jour-là. Et Jackie Kennedy, une fois retombé sur le siège, serre son mari dans ses bras et crie, alors là, je crois que je vous donne un petit scoop, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? C'est elle-même qui a donné ce témoignage à la commission Warren des mois après, quand il y a eu la commission d'enquête. Et les phrases que je vous ai dites, là, qui sont dites dans la voiture, avaient été censurées dans le rapport Warren. Et ça n'est qu'en dans les années 90, avec la déclassification des documents, qu'on a pu savoir ce qui s'était dit. Et alors, à ce moment-là, le chauffeur, voyant exploser le crâne du président, donc à 36 secondes, là, se retourne et accélère à plus de 130 km/h sous le pont en direction de l'hôpital Parkland. Alors là, encore un autre indice de sa trahison, c'est que Greer et Kellerman, donc les deux agents du Secret Service dans la voiture présidentielle, ne connaissaient pas Dallas officiellement. C'est la première fois qu'ils y venaient, ils y étaient arrivés la veille au soir, ils avaient logé dans un motel, et le matin, ils faisaient le cortège. Or, ce qui est très intéressant, c'est que Kellerman, à son micro, dit « Emmenez-nous, sommes touchés, emmenez-nous immédiatement à l'hôpital », et il dit ça au chef Curie, qui est dans la voiture de tête. Et le chef Curie, à ce moment-là, accélère à toute blinde, et les guide vers l'hôpital Parkland, qui n'est marqué par aucun panneau, je précise, à cet endroit. Et l'hôpital Parkland est à 6 km. Or, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un film qui le prouve, qui a été filmé sous le pont par un spectateur. Le chauffeur Greer accélère et double la voiture de Curie. Et il connaît parfaitement le chemin. Donc ça, c'est impossible officiellement. Une preuve supplémentaire. Alors maintenant, après les tirs, c'est le chaos et la mort. Alors à 12h30, donc tout est fini en fait, sur Dealey Plaza, c'est la panique. Il y a des gens qui sont allongés sur le sol. On voit un père protéger son enfant de 14 mois. Sa femme allongée à côté de lui. Des gens courent dans tous les sens. Certains se mettent à plat ventre ou s'accroupissent. 200 personnes, n'oubliez pas qu'on est au Texas et que les Texans sont des teigneux. 200 personnes n'ont pas du tout la réaction qu'on s'attendrait à voir, c'est-à-dire qu'au lieu de fuir les tirs, ils foncent vers le tas herbeux pour essayer d'attraper les tireurs. À ce moment-là, Max et Ladislas sautent par-dessus la balustrade et s'enfuient derrière un muret. Dans mon article, il y a la photo, justement, traitée par ordinateur très récente, faite en 2001 par le Media Lab du Massachusetts Institute of Technology, où on voit, justement, Max s'enfuir avec son complice. Là, on est devant des preuves carrément photographiques. Dans les minutes qui suivent, en fait, le coordinateur au parapluie et le cubain, eux, ne s'enfuient pas du tout. Ils s'asseyent carrément, tranquillement, sur le bord du trottoir, en attendant que que le bordel soit fini sur la place, pour s'éclipser. L'équipe Action numéro 3, qui était donc celle de Max et de Ladislas, qui a sauté la balustrade, elle court se cacher dans un train qui est près du pont ferroviaire. À l'arrêt, ils savaient que ce train devait partir à 12h32. C'est un train de marchandises qui transporte du grain. Donc ils montent dans un wagon, vous savez, ces wagons en bois avec porte coulissante dans lequel il y a du grain, et ils se cachent dans le tas de grain. Seulement, le problème, c'est que l'aiguilleur qui s'appelle Bowers, qui est sur une petite tour vitrée, comme celle que vous voyez dans les gares SNCF, a vu les types s'installer, il croyait que c'était des agents du Secret Service. Il a vu aussi les types tirer, donc il sait que ces types sont des assassins. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il peut pas faire grand-chose, le pauvre homme. C'est un brave homme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le courant et il arrête tous les trains, parce qu'il en a le pouvoir. Résultat, excusez-moi le terme vulgaire, nos trois gaillards, leur guide, Ladislas et Max, se retrouvent comme des cons coincés dans le train, où ils seront arrêtés 20 minutes après par la police qui, évidemment, envahit toute la place, fouille tout. Bon. Alors je précise qu'ils seront arrêtés, ils seront emmenés au commissariat central de Dallas et ils seront relâchés sur l'ordre de l'Office de l'immigration de Washington 1h10 plus tard. Donc, Ladislas et l'Américain seront relâchés. Max, quant à lui, comme il est membre de l'OAS et que ça risque de poser des problèmes diplomatiques, lui sera expulsé dans un avion vers le Canada, 1h10 après l'attentat. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est un coup d'État et que le pouvoir a changé de main, vu que le président a été assassiné. Et le nouveau chef, c'est Johnson, et comme il est dans le coup, évidemment, il fait le nécessaire. Alors, les équipes 1 et Action 1 et 2, c'est-à-dire celles qui étaient dans les deux immeubles, elles vont pas tout de suite quitter les immeubles, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est des vrais pros. Donc ils vont attendre 12h43, et à 12h43 précise, ils giclent littéralement des deux immeubles en même temps, et il y a une hache Rambler blanc, ça vous rappelle quelque chose, qui est identique à celle qui avait embarqué l'agent Alterman avant sur le défilé. Alors je ne peux pas vous jurer que c'est la même, mais enfin il y a une probabilité certaine. Donc une hache Rambler blanc les embarque, c'est une voiture break, vous voyez, une grosse voiture break, ces espèces de baignoires là des années 60, qui embarque donc toutes les deux équipes de tir. Et alors il faut préciser qu'ils seront vus par le chef adjoint de la police de Dallas qui s'appelle Roger Craig, c'est un bon témoin, par un autre témoin qui s'appelle Garland Slack, et par un type qui s'appelle Phil Willis, mais qui en plus fera deux photos de leur fuite. Donc on a des preuves visuelles de leur fuite. Au dépositori, donc au truc de livre scolaire, par l'entrée principale, il y a un motard de l'escorte de Kennedy qui saute de sa Harley Davidson et qui fonce comme une fusée à l'intérieur de l'immeuble, monte au premier, et qu'est-ce qu'il voit au premier? Il voit Lee Oswald en train de siroter un coca, pépère. Et il est accompagné, Marion Baker, du directeur du dépositori, qui était là ce jour-là devant pour voir le cortège. Et il demande, il braque son pistolet sur Lee Oswald, parce que tout le monde est suspect pour lui, puisqu'on a entendu des tirs de cet immeuble. Et il suffit d'un rien pour qu'il l'abatte, d'ailleurs. Et à ce moment-là, le directeur lui dit « Calmez-vous, parce que ce type est un de mes employés ». Donc Marion Baker se dit « Bon, bah tout va bien ». Et il continue à monter les immeubles, où évidemment, il ne trouve rien, puisque les équipes se sont déjà éclipsées. Alors, à partir de ce moment-là, donc dans les 1 minute 30 qui suivent les tirs, les forces de l'ordre, les agents du FBI, des agents du Secret Service, des vrais, pas les faux qui étaient déjà sur place, du groupe camouflage, mais les vrais cette fois-ci, envahissent la place. On voit des dizaines de policiers qui envahissent la place, qui prennent l'identité de tout le monde et qui confisquent tous les appareils photo et les caméras. Tous, parce que ce sont des pièces à conviction. sauf un film. Parce qu'il y a un policier qui s'appelle Kennedy, Régis Kennedy, d'ailleurs c'est un homonyme, c'est un hasard, qui est un policier du FBI de la Nouvelle-Orléans, qui fait partie des comploteurs et qui est sur place, sur Dealey Plaza. Lui, par contre, il a vu qu'une femme a pris un film qui est le plus dangereux de tous les films filmés. Beaucoup plus que celui de Zapruder ou d'Erwin Nix, qui sont des films très connus. C'est une dame qui s'appelle Oliver, et cette dame a filmé, en fait, elle était face à la palissade, et elle a filmé quasiment en gros plan les tireurs. Et son film est le plus net connu de l'assassinat de Kennedy, mais vous ne pourrez jamais le voir, parce que ce sont les comploteurs eux-mêmes, grâce à ce Régis Kennedy, qui lui a confisqué sa caméra. Et ces films, comment on sait ce que contient ce film? C'est tout simplement parce que ce film circule dans les milieux néo-nazis, en Europe et aux États-Unis, et pour les membres très très importants de ces milieux. Et j'ai pu rencontrer à Paris deux personnes qui ont vu ce film, qui sont des fachos de la pire espèce, peu recommandables, mais ils m'ont dit qu'ils ont vu ce film, et c'est vrai. Et ce film a été aussi projeté dans une officine, disons, fasciste en France, qui s'appelle l'ETEC, E-T-E-C, pas plus loin qu'il y a 4 ans. Alors j'espère qu'un jour, un enquêteur astucieux arrivera à se procurer une copie de ce film, donc c'est pas désespéré. Parce que si vous voyez ce film, tous les gens qui l'ont vu disent qu'on voit toutes les équipes de tir, c'est d'une netteté époustouflante, et c'est vraiment le film qui mettrait fin à toute espèce de discussion, quelle qu'elle soit, sur les 4 équipes de tir. Même si on a des preuves. Mais tant qu'on ne les a pas vues tirer, évidemment, les gens se disent « ouais, mais… » etc. Bon. On a des preuves judiciaires, des preuves policières, mais on n'a pas l'image animée, vous voyez. Mais cette image existe, c'est le film de Oliver, qui a été confisqué par Régis Kennedy. Et alors, pourquoi il l'a confisqué? Pas seulement parce qu'il contient des images très nettes. Parce que le film de Nix contenait des images tout aussi nettes, il a été trafiqué par les services secrets américains pour le détériorer, pour qu'on ne voit plus le fond qui est tout noir. Le film de Zapruder a été trafiqué de la même manière, donc on aurait pu faire pareil avec le film d'Oliver. Seulement, il y a un problème, c'est que Oliver était la voisine de Roscoe White, et elle l'a reconnu, et Roscoe White l'a reconnu aussi. Elle était absolument par hasard sur Dealey Plaza. Et Régis Kennedy, qui sait par les coordinateurs radio qui le préviennent, parce que Roscoe White a dû prévenir, fais attention, il y a une nana qui est ma voisine, qui est juste en face, et elle m'a filmé, et elle m'a vu. Donc, lui, Régis Kennedy, les coordinations radio très probablement lui dit, à son oreillette, allez récupérer cette caméra et ce film avant le FBI et les flics. Voilà l'explication. Alors là, je vous donne des faits peu connus. Hein. Alors donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le cortège présidentiel? Alors, le cortège, lui, arrive à 12h35 à l'hôpital Parkland, qui est le plus grand hôpital de Dallas. Les médecins ont été prévenus par radio que le président a été touché, ainsi que le gouverneur du Texas. Donc 12h35, l'avant du cortège présidentiel stoppe à l'entrée des urgences du Parkland Memorial Hospital, voilà son vrai nom, où les salles trauma 1 et 2, alors trauma 1 et 2 c'est un terme, un anglicisme, qui définit ce qu'on appellerait nous les urgences 1 et 2. Ces salles sont déjà prêtes, parce que c'est le président des États-Unis et je peux vous dire que tout l'hôpital se remue. Le gouverneur Connally, qui a le teint jaunâtre, il est agonisant en fait, et les cheveux qui sont inondés du sang et de la cervelle de Kennedy, est retiré immédiatement par les gardes du corps de Kennedy de la voiture, parce qu'on ne peut pas retirer Kennedy avant d'avoir retiré Connally des strapontins. Plié en deux, Jackie Kennedy, qui est penchée sur son mari, gémit, elle l'embrasse, vous savez, comme une mère embrasse son bébé, et elle tente de façon, c'est vraiment poignant, elle tente de cacher l'énorme blessure à la tête. Il faut savoir que 30% des os crâniens de Kennedy ont éclaté, n'existent plus. C'est abominable à voir. Hein. Et donc elle essaye de cacher ça, ce qui est désespéré, mais vous savez comment nous réagirions-nous dans la même situation. Et l'agent Clint Hill, le brave Clint Hill, qui lui est un homme honnête, pose une main sur l'épaule de Jackie et lui murmure doucement, « Je vous en prie, Madame Kennedy, je vous en prie, je cite. Hein. » Alors ça c'est le témoignage de Jackie Kennedy elle-même, hein, qu'elle a fait devant la commission Warren. « Je vous en prie, Madame Kennedy, je vous en prie, nous devons montrer le président à un médecin. » Jackie Kennedy lui répond, « Je ne vais pas le laisser partir, Monsieur Hill. Nous devons l'emporter, Madame Kennedy, lui dit Hill. » « Non, monsieur Hill, vous savez qu'il est mort. Laissez-moi, laissez-le-moi. » Et alors là, Clint éclate en sanglots, vous voyez ce garde du corps qui est un homme rude, tellement il dit lui-même, il dit « j'ai fond en larmes comme un gosse ». Et il dit « La seule chose que j'ai vue, c'est que j'arriverai pas à arracher le président à son épouse tant qu'elle verrait la tête, avec le cerveau qui coule, etc. » Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa veste, il en recouvre la tête de Kennedy, avec des gestes très délicats, on dit les témoins, c'était assez étonnant. Et à ce moment-là, Jackie Kennedy accepte de lâcher son mari, et c'est les gardes du corps Hill, Kellerman, un des traîtres, Powers, un autre traître, Lawson, un autre traître, ainsi que le chauffeur Greer, un traître, comme vous le savez déjà, qui soulève le président. Et à ce moment-là, le sénateur Yarborough, qui s'est approché de la voiture du président, qui a quitté le cortège, qui est un ami de Kennedy, murmure une phrase assez étrange. Parfois les gens ont des phrases étonnantes dans ces cas-là. Il dit « Excalibur a sombré sous les vagues ». très littéraire. Alors Excalibur, c'est parce que Excalibur est le nom de code secret dans les transmissions militaires du président. On ne dit pas le président, on dit Excalibur. À sombrer sous les vagues, je sais pas, c'est une allusion poétique, mais c'est étrange comme phrase, c'est pour ça que je vous la signale. Et alors, en trauma 1, il y a 12 médecins qui sont sur le pied de guerre. Je vous cite la liste, parce que vous verrez que c'est impressionnant. 4 chirurgiens, 4 anesthésistes, 1 chirurgien urologue, 1 chirurgien stomatologue, 1 cardiologue, 1 neurologue, et ils sont tous prêts à le recevoir d'urgence.
Here's another late development, and this news keeps coming in as we're talking here. President Kennedy, according to the Associated Press, and Texas Governor John Connally were shot from ambush today in Dallas, Texas, and it is not known whether either Mr. Kennedy or Governor Connally were killed. Both Mrs. Kennedy...
12h38, il est en trauma 1. Le premier chirurgien qu'il examine, c'est un des chefs de l'hôpital, c'est le chirurgien Charles G. Carrico. Alors je cite toujours son témoignage à la commission Warren. Il constate que, je cite, « son teint est cendré, sa respiration lente, spasmodique, agonique, irrégulière, qu'il ne fait aucun mouvement volontaire, que ses yeux sont ouverts et ses pupilles dilatées, sans aucune réaction à la lumière, que son pouls est imprenable et que quelques bruits cardiaques sont perceptibles. » Vous voyez qu'il est quasiment mort, parce que quand un médecin dit « bruit cardiaque », je peux vous dire que ça va vraiment mal. C'est-à-dire qu'on a simplement des glouglous et des gargouillis. Et il remarque immédiatement, en tournant légèrement le dos de Kennedy, deux blessures. Une petite à la gorge et une large à la tête où manque 30% de la boîte crânienne, le sommet et la partie arrière du crâne, comme je vous l'ai expliqué. Il vous s'échappe du tissu cérébral déchiqueté. Alors je cite, il dit « ce tissu s'échappait en un suintement lent et considérable suivi d'une hémorragie plus abondante ». Et il constate aussi tout de suite, dans le dos, la blessure d'entrée d'une balle et, ce qui est très important, je cite son rapport, l'orifice de sortie de la balle à la gorge, qui est la preuve absolue que la balle à la gorge venait bien de devant et non pas de derrière, comme l'a affirmé la commission Warren. 14h40, les docteurs McClelland et Malcolm O'Perry pratiquent immédiatement une trachéotomie, c'est quand on perce la trachée pour mettre un tuyau respiratoire, en incisant l'orifice d'entrée de la balle dans la gorge, parce que là on va prendre ce qui est déjà légèrement déchiré. Donc ils incisent cet orifice d'entrée de la balle et placent immédiatement un tuyau sous pression d'oxygène. Simultanément, les docteurs Carrico et Ronald Jones font des incisions sur la jambe droite et le bras gauche de Kennedy pour placer des perfusions. Le cardiologue Fouad Bachour et l'anesthésiste Guy Zucker Jr., eux, rétablissent la fonction respiratoire et la circulation sanguine périphérique et ils mesurent même un faible pouls sur l'artère fémorale sous la cuisse. Donc ça veut dire qu'au fond, artificiellement, ils arrivent à mettre un peu en route, remettre en route le corps de Kennedy.
An important bulletin. President Kennedy was given blood transfusions just a few moments ago at Parkland Hospital in an effort to save his life.
Et alors, pendant ce temps-là, le pauvre Connally, lui, arrive dans la salle de trauma 2. Et il est très grièvement blessé. Pas autant que Kennedy, mais il est au bord de la mort. Donc c'est à 12h45, donc en trauma 2, le chirurgien Robert Shaw examine le gouverneur Connally. Celui-ci présente 3 blessures provoquées par 2 balles. Alors là, je vous dis 2 balles et vous verrez que beaucoup d'enquêteurs disent 1 balle. Mais là, je parle en tant que physicien, j'ai passé 30 ans de ma vie à étudier l'assassinat de Kennedy. Je peux vous dire avec certitude qu'on peut, par analyse balistique, prouver qu'il y a eu 2 balles et non pas 1. Donc la première balle est entrée par le dos et ressortie par une large plaie béante du thorax, dont je vous avais déjà parlé pendant les tirs sur Dilley Plaza. Thorax antérieur droit. Hein. La deuxième balle donc a traversé le poignet droit en sectionnant le nerf de la préhension avant de finir sa course dans le fémur de la cuisse gauche à 32 mm au-dessus du genou. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. 2 opérations chirurgicales seront nécessaires pour sauver Connally. Alors la première opération la plus urgente, c'est celle du poumon parce que là, il est en train de mourir d'hémorragie. Donc cette opération est faite par le docteur Robert Shaw qui opère le thorax de 13h35 à 15h20. Et un peu plus tard, on fait les blessures au poignet et au fémur qui sont moins urgentes. Donc entre 16h et 16h50, les docteurs Gregory et Osborne, assistés du docteur Parker, opèrent les blessures du poignet et de la cuisse gauche de Connally. Et ils arriveront à le sauver, mais de justesse. Et Connally mettra des mois, voire même des années à s'en remettre. Alors à 12h48, en l'absence de toute réaction nerveuse, musculaire ou cardiaque de Kennedy, l'amiral Berkeley, qui est le médecin personnel du président, constate le décès. Donc, c'est en fait à 12h48 et non pas à 13h, comme le dit l'histoire officielle et comme tout le monde le dit, c'est faux. J'ai vérifié moi-même, j'ai fait une enquête très minutieuse sur les rapports de l'hôpital Parkland et je peux vous dire que c'est 12h48 à la seconde près, c'est l'heure exacte de la mort officielle de Kennedy. Alors, je suis incapable de vous dire s'il était déjà mort dans la voiture ou s'il est mort vraiment à ce moment-là, parce que je ne suis pas médecin et je pense que même des médecins urgentistes discuteraient à l'infini. Mais en tout cas, c'est l'heure officielle de constat de la mort de Kennedy. Donc là, Kennedy, qui est donc le 35e président des États-Unis, meurt à l'âge de 46 ans. Alors à 13h, le père Oscar Hubert, qui est un prêtre de la ville de Dallas, qui officie comme aumônier à l'hôpital, administre à Kennedy les derniers sacrements suivant le rituel catholique, puisque Kennedy est catholique. Dans la chambre numéro 13, c'est une chambre qui est à peu près à 10 mètres des urgences, en face dans le couloir, l'attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, Malcolm Kilduff, annonce au vice-président Johnson la mort du président. Maintenant, revenons dans la ville de Dallas, parce qu'à 13h10 a lieu un événement très important. L'agent Tippit, dont nous avions déjà parlé quand nous parlions des différentes équipes au début de l'émission, est abattu, non pas par Lee Oswald, comme l'a dit la commission Warren, mais par Roscoe White. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est que Roscoe White est un sosie de Oswald. C'est-à-dire que les témoins qui ont vu Oswald étaient de bonne foi, ils n'ont pas menti. Ils l'ont pris pour Oswald, mais on sait qu'il n'avait pas la même tenue vestimentaire que portait Oswald à ce moment-là, et que Oswald était à une distance qui faisait qu'il était impossible qu'il atteigne cette zone. Et un deuxième homme, qui a été décrit comme petit et gros avec un chapeau mou, et qui a été reconnu par une femme comme étant Jack Ruby, qui était un grand copain de Roscoe White. Donc Tippit est abattu dans la rue où il avait en fait rendez-vous avec Oswald. Les comploteurs avaient dit à Tippit, tu vas chercher Oswald pour l'évacuer vers un aérodrome où David Ferry va le prendre en avion et l'amener au loin en Floride. Et à Oswald, on lui avait dit la même chose. On lui avait dit, Tippit va te chercher, mais on avait dit, Oswald, il va te chercher dans un cinéma qui est dans ton quartier et tu vas l'attendre là-bas et il viendra te chercher. Vous voyez, c'était bien monté comme les tapants. Alors, revenons à l'hôpital. À 13h20, Jackie Kennedy est informé que son mari sera autopsié à l'hôpital militaire de Walter Reed, qui est l'hôpital de l'armée de terre à Washington. Et elle s'y oppose immédiatement. Pourquoi ? Parce que elle a toujours été soignée en tant que première dame des États-Unis, et son mari aussi, dont vous savez qu'il avait des gros problèmes de dos, et qui souffrait aussi d'une maladie rare qui s'appelle la maladie d'Addison, qui est une maladie des glandes lymphatiques. Donc Kennedy parfois était hospitalisé pour des choses assez graves, et il était toujours hospitalisé à l'hôpital Bethesda de la Marine, parce que Kennedy, pendant la guerre, faisait partie de la Navy, de la Marine. Donc il allait à l'hôpital de la Marine quand il se faisait soigner, et sa femme aussi. Donc elle dit, mon mari, au fond, aurait aimé que les dernières interventions médicales qu'on fait sur son corps aient lieu dans son hôpital favori, avec des médecins qu'il connaît, une équipe médicale qu'il connaît, donc elle exige que l'autopsie ait lieu à l'hôpital Bethesda. Et ça, c'est absolument catastrophique pour les comploteurs, parce qu'ils avaient prévu une équipe de médecins félons, à Walter Reed, qui devait en fait contrôler l'autopsie, c'est-à-dire effacer les preuves, manipuler les radios, etc., comme ils voulaient. Et là, ils ne pourront pas, puisqu'il va être autopsié à Bethesda, où ils n'ont pas, à part un seul docteur, d'ailleurs, qui est dans le coup avec eux, enfin favorable à leurs idées, à part ça, toute l'équipe, en fait, de Bethesda n'est absolument pas dans le complot, et certainement pas favorable à un trafic du cadavre. Donc pour eux, c'est un énorme problème. Alors ça, c'est une chose qui a été découverte ces dernières années. Hein. Là, je suis en train de vous donner des scoops, d'une certaine manière. Alors, le nouveau président Lyndon Johnson, puisque Lyndon Johnson, vice-président, devient immédiatement président à la mort du président, est protégé par 6 gardes du corps et accompagné de 4 députés texans, dont l'un est dans le complot d'ailleurs, le député Thomas, embarque précipitamment dans un cortège de voitures banalisées. Lui, il sait qu'il ne risque rien, puisqu'il est à la tête du complot. Mais par contre, la police de Dallas, elle ne le sait pas. Donc elle dit, monsieur le président, on ne peut pas vous amener dans le cortège officiel parce qu'on ne sait pas ce qui vous attend. Parce que c'est peut-être une opération de très grande envergure et il peut y avoir d'autres attentats. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le shérif de Dallas lui dit, écoutez, je vous ai organisé un truc, c'est des voitures tout à fait banales. En fait, c'était des voitures privées de flics qui ont été prêtées en vitesse pour faire un cortège de voitures banales. Les témoins qui ont vu ça disent, c'était vraiment Laurel et Hardy, hein. ou du Charlie Chaplin, c'est-à-dire qu'ils ont embarqué. Ils roulaient tellement vite qu'ils ont failli se cracher sur le gazon de l'hôpital Parkland. Ils ont failli heurter un camion de lait. En plus, le shérif Dallas était tellement stupide que pour ce cortège banalisé, donc plus ou moins secret, il avait mis 2 motards avec des sirènes devant, ce qui est très discret. Enfin bref, c'est vraiment du grand guignol, quoi. C'est sinistrement ridicule. Et alors le cortège roule tellement vite, ils ont dû rouler à mon avis à 180, parce qu'ils ont rejoint en 7 minutes l'aéroport de Love Field et Air Force One. Je crois que c'est un record du monde de traversée de Dallas, voyez. À 13h30, Malcolm Kilduff, l'attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, informe la presse mondiale de la mort du président.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Johnson has left the hospital.
Pendant ce temps-là, dans la salle de trauma 1, où gît le corps de Kennedy, le docteur Charles Crenshaw donne ordre aux employés des pompes funèbres Aubrey Reich et Dennis McQueer de toiletter le corps du président, rapidement. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus effacer des preuves pour l'autopsie, mais on le toilette un petit peu pour qu'il soit un minimum présentable. Pendant ce temps-là, 2 infirmières vont faire probablement l'acte le plus triste et le plus traumatisant de leur vie, c'est ce qu'elles ont dit après. Alors ces 2 infirmières, c'est des femmes toutes simples, mais je veux donner leur nom, parce que c'est des choses très importantes dans des moments pareils. C'est des femmes bon, totalement anonymes qu'on ne cite jamais, mais je tiens à les citer. Alors l'une s'appelle Margaret Hancliffe et l'autre s'appelle Diana Bowron. Et elles sont chargées d'emballer la tête de Kennedy, dont sort la cervelle, c'est absolument horrible à voir, dans deux serviettes éponges avant que son corps, qui n'a pas été mis à nu comme le veut normalement les règles, mais elles lui ont laissé son caleçon par déférence vis-à-vis du président des États-Unis, donc il ne garde que son caleçon, soit placé dans un cercueil de bronze qui a été amené en vitesse du centre-ville. Ils ont pris le plus beau cercueil disponible en stock et l'ont amené. Il faut savoir que là commencent les ennuis, si on peut dire. Parce qu'il y a un problème. Le Texas n'a pas le statut des autres États américains. C'est-à-dire que le Texas est un État autonome qui peut quitter la Confédération américaine quand il veut et qui a sa propre constitution et sa propre loi qui a primauté sur la loi fédérale, contrairement aux autres États. C'est-à-dire que la loi du Texas a la même valeur que la loi fédérale américaine. C'est un État exception. Donc, selon la loi du Texas, Kennedy doit être autopsié au Texas, à Parkland même. Le juge de la ville de Dallas, qui est un très haut magistrat, accompagné du chef médecin légiste, qui s'appelle Earl Rose, et le juge de Dallas s'appelle le juge Ward, qui évidemment sont venus immédiatement à Parkland, disent aux gardes du corps de Kennedy, et n'oubliez pas que ces gardes du corps sont dans le complot, ils leur disent l'autopsie aura lieu ici. Vous pouvez vous-même amener vos légistes si vous voulez. Vous pouvez vous-même assister à l'autopsie. L'ensemble du FBI peut y assister, même le haut état-major. Mais la loi du Texas impose que l'autopsie ait lieu ici. Donc le corps va être immobilisé, mis sous scellé jusqu'à l'autopsie. Et à ce moment-là, Kellerman, qui est un peu le responsable du moment, s'oppose au médecin légiste, Earl Rose, et lui dit « n'en est pas question ». Et comme ils insistent en disant « la loi est la loi », vous violez les lois fédérales, et il s'agit là d'un acte de forfaiture, ce qui est très grave, ce qui est vrai. Kellerman et ses hommes sortent leurs armes et menacent de tuer le juge Ward et le docteur Earl Rose. Ils ont dit qu'ils ont cru vraiment qu'ils allaient tirer. Et Kellerman répète, mais les témoins disent une bonne dizaine de fois, il ne prononce aucune phrase, si ce n'est une seule, il dit « ceci est le corps du président des États-Unis et nous allons l'emmener à Washington ». Et chaque fois que le juge Ward ou Earl Rose disent « non, il n'en est pas question », il répète « ceci est le corps du président des États-Unis et nous allons l'emmener à Washington », tout en braquant son pistolet automatique avec ses hommes sur eux. Vous voyez l'ambiance. 13h35, on revient dans le centre de Dallas. Oswald est arrêté par la police de Dallas dans le cinéma qui s'appelle le Texas Theater, où il attendait Tippit, en fait, chargé de l'amener au terrain d'aviation, comme je vous l'expliquais. Et alors là, ça se passe très mal pour les comploteurs, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, dès que Tippit a été abattu par Roscoe White et Jack Ruby, des complices dans la police de Dallas ont fait passer un message radio à toutes les voitures de patrouille, disant « un individu du nom de Lee Harvey Oswald vient d'abattre notre collègue, l'agent Tippit ». Et pourquoi ils font passer ce message? Pas seulement pour accuser Oswald, mais surtout parce que, n'oubliez pas qu'on est au Texas. Le Texas, à l'époque, est l'État le plus violent des États-Unis, y compris dans la police. Il faut savoir que c'est une police raciste, d'extrême droite, hyper violente, et qui n'a pas de compte à rendre en cas de bavure, qui en plus a un esprit de corps dont on n'a même pas idée. Et donc, ils sont sûrs que les mecs vont pas arrêter Oswald vivant, ils vont l'abattre à vue, par vengeance. Donc c'est très bien vu, vous voyez, le montage. Seulement, il y a un problème. C'est qu'au moment où ils l'arrêtent dans le théâtre, parce qu'ils donnent le signalement du théâtre, etc., comme par hasard, n'est-ce pas? Et c'est un marchand de chaussures voisin dont on a vu qu'après il avait été payé par Jack Ruby, qui dit « Ah, j'ai vu un type qui correspond au signalement qu'on a donné à toutes les radios et toutes les télés, comme par hasard. » Et donc la police arrive, alors vous imaginez une dizaine de voitures qui convergent comme dans les films d'action devant le théâtre, les policiers qui se ruent à 10 dans le théâtre, armes au poing. Et en plus, on a quoi? On a un Lee Oswald qui se lève et dégaine son pistolet. Parce qu'en fait, Jack Ruby, à la sortie du dépositori, juste après le crime, lui a remis un revolver. Mais ça, c'est pour qu'il soit encore plus suspect. Ce revolver qui sera analysé après par le FBI, on découvrira qu'il était incapable de tirer. Il avait été trafiqué. Très intéressant, ça. C'est-à-dire qu'il aurait appuyé sur la gâchette, il ne serait rien passé. Les balles ne seraient pas parties. Ça, c'était pour être sûr qu'il soit abattu. Et à ce moment-là, pas de bol, parce que le premier flic qui se rue vers Oswald, c'est le seul flic de la police de Dallas, qui est un géant, c'est un type qui est une force de la nature, qui n'a peur de rien. Et lui, comme tout le monde disait qu'il avait des mains de battoir, des mains de boucher, c'est pas qu'il veuille pas tuer Oswald. C'est simplement que lui, il fait ça à main nue, quoi. Et alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se rue sur Oswald, qui a sorti son pistolet, ça ne l'impressionne pas du tout. Il lui met, comme on dit vulgairement, une mandale, et si on voit les photos d'Oswald après son arrestation, il a le portrait un peu refait, sa mère aurait du mal à le reconnaître. Seulement, entre-temps, comme d'autres policiers en civil arrivent, qui eux sont moins, comment dirais-je, primaires que les policiers en uniforme, eux, ils calment le jeu et ils lui foutent les menottes. Ce qui fait qu'Oswald est vivant au moment de son arrestation. Et ça, c'est une catastrophe pour les comploteurs, parce qu'il peut parler. Et c'est pour ça que Oswald sera assassiné deux jours après, par Jack Ruby, pour rattraper l'erreur. Alors donc, à 13h35, Oswald est arrêté dans ce cinéma. À 14h04, revenons à l'hôpital Parkland, le cercueil de Kennedy est mis dans une ambulance blanche qui rejoint l'aéroport, accompagné par Kennedy dans l'ambulance, Jackie Kennedy. À 14h18, le cercueil, accompagné par Jackie Kennedy, est monté à bord d'Air Force One et installé tout à l'arrière de l'avion par des agents du Secret Service. À 14h33, dans l'avion Air Force One, Lyndon Johnson, à l'avant de l'avion, en présence de tous les officiels qui sont dans l'avion, y compris Jackie Kennedy, prête serment devant la juge Hughes qui est venue du centre de Dallas juste pour lui faire prêter serment, parce qu'il faut que le serment présidentiel soit prêté devant un juge d'État. Et c'est une femme, la juge Hughes, qui lui fait prêter serment. À 14h38, la cérémonie de serment est finie. Donc Johnson est maintenant définitivement président des États-Unis. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on est dans une situation épouvantable. Imaginez Johnson prêtant serment après l'assassinat du siècle. Le président des États-Unis vient d'être tué dans des conditions où les gens qui ne sont pas dans le coup se demandent si c'est un coup d'État, qu'est-ce qui se passe. Tout le monde, la moitié de l'équipe dans Air Force One est en larmes. Même le pilote d'Air Force One de l'armée de l'air est en larmes. Vous voyez l'ambiance, parce que Kennedy était adoré, y compris par son personnel. À ce moment-là, donc dans cette ambiance, à côté, à sa gauche, Johnson a Jackie Kennedy avec son costume Chanel rose, qui est inondé du sang de son mari et de matière cervicale. Elle est elle-même en larmes. Eh bien, à 14h38, donc quelques minutes après la prestation de serment, qu'est-ce que fait Johnson ? Hilar, et une photo le prouve, que j'ai mis d'ailleurs dans l'article, Johnson se tourne vers le député Thomas qui l'avait accompagné dans l'avion, qui fait partie du coup aussi. Et le député Thomas, complètement rigolard, lui fait un clin d'œil et Johnson lui fait un grand sourire. C'est du style, on a eu ce salaud, on a le pouvoir. Ça, c'est, je dirais, une signature photographique visuelle du coup d'État. C'est une photo absolument ignoble. Et je pèse mes mots. Et alors, pendant ce temps-là, va se passer quelque chose d'extraordinaire qui n'a été découvert par les enquêteurs que très tardivement à la fin des années 80. C'est que, pendant que tout le monde est à l'avant, tout le monde est là, sauf nos chers agents du Secret Service, qui sont dans le coup. Kellerman, Lawson, Powers et les autres. Et qu'est-ce que font nos charmants agents à l'arrière? Ils ouvrent le cercueil, et on a la preuve qu'ils l'ont ouvert, parce que, d'une part, quand on regarde les photos de la sortie du cercueil à Washington, on voit qu'il est bosselé à cet endroit, et qu'une des ferrures a été arrachée. Alors qu'il est intact à la montée dans l'avion, et qu'il est intact dans l'avion. Témoignages de 20 témoins, dont certains sont des chefs d'état-major du Pentagone, vous voyez, donc c'est quand même des gens fiables. Et à la sortie, le cercueil est bosselé et forcé. Et en plus, l'un des agents traîtres, qui s'appelle Robert Book, aura des regrets à la fin de sa vie, dans les années 70, et va témoigner de la substitution. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que vous vous rappelez qu'un agent du Secret Service, qui essayait de prévenir Kennedy, a été tué dans les rues de Dallas le matin. Et son corps, comme c'est un agent de Secret Service, a été mis dans la soute de l'avion dans un cercueil en aluminium militaire. Mais il est, lui, dans la soute, c'est pas le président. Le président, lui, il est dans la partie officielle de l'avion. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que le cercueil a été placé près d'une trappe qui donne sur cette soute. Et là, ils vont substituer les corps, c'est-à-dire que le corps de Kennedy est retiré du cercueil. Il est placé dans ce qu'on appelle un body bag, c'est un sac en plastique noir pour les cadavres, qu'on utilisait au Vietnam et ailleurs. Et il est descendu par la trappe, dans la soute, en dessous, où se trouve le cercueil de Halterman, et le corps de Halterman, pour que le poids du cercueil reste crédible, est placé dans le cercueil de Kennedy. Et en fait, c'est ce cercueil-là, transportant Halterman, que la presse mondiale va filmer. Et à ce moment-là, donc, ils font cette substitution. Pourquoi? Alors ça prendra moins de 10 minutes, c'est très rapide en fait. Robert Book dit qu'on a mis 9 à 10 minutes pour faire ça. Or, la cérémonie devant a duré plus que ça, donc ils avaient tout le temps de le faire. Et c'était le seul moment où il pouvait le faire, parce que avant-après, Jackie Kennedy et l'amiral Berkeley, donc le médecin de Kennedy, ainsi que le chef d'état-major du Conseil national de sécurité, qui était un ami de Kennedy, resteront à côté du cercueil pendant tout le vol, pour l'honorer. Donc le seul moment où il pouvait faire ça, c'est quand Johnson prêtait serment. Alors ce qui est intéressant, c'est que normalement, Johnson devait prêter serment à Washington, ça ne prêtait pas, c'était purement formel. Et c'est Johnson qui a insisté pendant 30 minutes pour le faire tout de suite dans l'avion. Parce qu'il était dans le coup, donc c'était le seul moyen d'offrir aux autres une possibilité de faire la substitution. Vous voyez que tout se tient de façon parfaite. Alors, Air Force One quitte Dallas à 14h47 pour Washington. Alors maintenant, revenons un petit peu à ce qui se passe dans la ville de Dallas, parce qu'il se passe beaucoup de choses après l'attentat, il ne faut pas croire que c'est fini. À 16h, vous vous rappelez que je vous avais signalé qu'un certain Abraham Zapruder, sur le Grassinol, a filmé tout l'attentat. Et lui, par contre, bizarrement, sa copie du film n'a pas été confisquée. Pourquoi? Parce que Abraham Zapruder, qui apparemment a le sens de la communication avec la presse, 4 minutes après avoir arrêté sa caméra, interviewé comme tout le monde, comme tous les témoins sur la place par les journalistes, dit « J'ai fait un très bon film de l'assassinat ». Parce que Zapruder est un type qui fait du cinéma amateur et qui sait que ses images sont bonnes. Il a une très bonne mémoire visuelle, donc lui, il sait avant même d'avoir développé le film qu'il a fait un film parfait. Un petit pro amateur, si vous voulez. Et donc, il dit à un représentant de l'agence UPI, donc une agence internationale, qui le passe sur les télex mondiaux immédiatement, il dit « J'ai un film de l'attentat ». Les autres témoins n'ont rien dit. Donc on peut leur confisquer ce qu'on veut, personne n'en sait rien. Par contre, lui, il dit « J'ai un film ». Et à ce moment-là, les agents du FBI qui s'apprêtaient à lui confisquer la caméra ne peuvent pas le faire. Et ils sont obligés de négocier avec lui. L'agent du secret de service, Sorrell, qui est donc le chef d'antenne des services de protection présidentielle pour la ville de Dallas, qui lui n'est pas dans le complot, mais qui voit bien qu'il faut étouffer tout ça, dit à Zapruder, il dit « Écoutez, soyez sympa, je vous accompagne quand vous allez faire développer le film au Labo Kodak de Dallas, vous en faites 3 copies, et il dit « Voilà ce que je vous propose. Vous me confiez le film pendant une nuit, je vous signe tous les papiers de décharge nécessaires, et je vous le rends, on se donne rendez-vous au bureau du FBI de Dallas, où je vous ramène le film, nous allons en faire nos copies, parce que nous en aurons besoin pour l'enquête. Vous comprenez, si vous êtes un citoyen américain patriote, que pour votre film est probablement une des preuves les plus importantes de l'attentat. » Et alors le bon Zapruder se dit « Bon, bah oui, en bon américain, vous auriez fait pareil, vous dites « Ok, je vous confie les films », parce que lui ne sait pas qu'il y a eu complot ni rien. Lui, il croit que tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est propre. » Et donc, il confie ce film à l'agent Sorrell, Forrest Sorrell. Et alors, voilà ce qui va arriver à ce film. Et vous allez voir ce que c'est qu'un coup d'État et l'organisation d'un État quand il fait un coup d'État, lorsque des comploteurs tiennent les leviers de l'État. À 16h30, un avion militaire décolle de Love Field et se pose à 21h à la base d'Andrews à Washington, avec le film et 3 copies de Zapruder. Les films sont remis par voiture rapide à 22h au National Photo Interpretation Center, ça s'appelle le NPIC, qui en fait est géré par la CIA, même s'il appartient à l'armée américaine, en fait il est sous contrôle de la CIA, dans le Maryland. Alors qu'est-ce que c'est que le NPIC? Le NPIC, c'est l'unique centre des États-Unis qui traite les images d'avions espions, les images satellites, et qui, le cas nécessaire, fabrique des faux photographiques pour la CIA. C'est-à-dire que c'est le labo le plus sophistiqué des États-Unis pour traiter des images ou les trafiquer. Et on a les preuves absolues de ce que je vous dis. Alors la preuve absolue, vous me direz, c'est laquelle? Eh bien c'est tout simplement que des années après, Sorrell, pris de remords, c'est lui qui a parlé de tout ça. Alors quand le mec qui a fait le coup lui-même en parle, il est probable que c'est vrai. Donc durant 5 heures, les techniciens du NPIC suppriment les images montrant d'une part le tir dans le panneau routier qu'avait fait Roscoe White, dont je vous avais parlé, dans les tirs. L'arrêt de la voiture pour permettre les tirs à la tête, vous voyez, où le chauffeur s'arrête. Ça, c'est meurtrier pour prouver un complot. L'éclatement de l'arrière du crâne de Kennedy, parce qu'effectivement, ça détruit la thèse du tireur unique à l'arrière de la voiture depuis un immeuble. Bah, quand vous voyez le crâne qui explose avec la cervelle qui part vers l'arrière, c'est plutôt gênant. Ainsi que le film est en plus recadré plus serré. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que chaque fois que vous voyez le film de Zapruder, en fait, le film est à peu près 3 fois moins net que l'original, c'est voulu. Et en plus, il ne montre que à peu près la moitié de la surface de l'image. Pourquoi? Parce que si on avait montré toute l'image, on aurait vu le motard derrière. On aurait vu sur la droite aussi Max en train de tirer sur les dernières images, parce qu'il apparaît sur le film de Zapruder, derrière la palissade, qui rentre dans le champ vers la fin. Et surtout, on aurait vu les tirs de face, ce qui détruisait la thèse du tireur unique. Et pour les comploteurs, c'est catastrophique. Donc il faut absolument trafiquer ce film. Et c'est ce qu'ils font. Et alors, on peut le prouver parce que, par exemple, vous avez, si vous observez le film Zapruder, qui est dans le CD de Top Secret, nous avons placé la totalité des films filmés ce jour-là. C'est aussi une première en Europe, parce qu'il y en a des tas que vous n'avez jamais vus. Parce qu'il y a eu d'autres films faits ce jour-là, dont certains découverts après 98. Et alors, quand vous analysez le film Zapruder, je vous ai mis une copie originale à haute résolution, et je vous ai mis une analyse faite par le Media Lab du MIT, où on a restauré le film en multipliant par 20 la finesse du film. Et au ralenti, alors là, vous voyez tout ce que je vous explique. Lorsque vous regardez ce film, vous voyez tous les trucages. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des gens qui font un tour sur 180 degrés en 2 centièmes de seconde. C'est un record absolu, hein, même une patineuse artistique n'y arrive pas. Vous voyez des gens qui font des mouvements complètement aberrants, c'est-à-dire qu'ils manquent des images. Enfin, on peut prouver de façon certaine tous ces trafics, en plus du témoignage de Sorrell. Et alors, après qu'ils aient fait tout ce travail pendant 5 heures, et d'autre part, on a trouvé d'ailleurs, ça c'est l'enquêteur français William Raymond, qui est c'est le meilleur spécialiste français de l'assassinat de Kennedy, qui est un homme d'un sérieux extraordinaire. qui est, je dirais, un maniaque dangereux dans ses enquêtes, parce qu'il regarde tous les détails. Et lui, il a même déterré un dossier CIA, qui s'appelle le numéro 450, que j'ai trouvé moi-même aussi. Et ce dossier est carrément le rapport de trafic du film, officiel, qui a été déclassifié dans les années 90. Donc c'est la preuve finale irréfutable, où il y a le détail des opérations que je vous ai mentionnées. Et les horaires même. C'est extraordinaire. Donc à 3h15, le film trafiqué, 3h15, on est le 23 novembre, hein, 3h15 du matin, ainsi que trois copies, tout aussi trafiquées, s'envolent pour Love Field, où l'avion se pose à 6h45 à Dallas. Les films sont remis, vous voyez, c'était le course contre la montre. Ils sont remis à 7h par Sorrells à Zapruder. Vous imaginez Sorrells arrivant à haletant, comme si de rien n'était, au bureau du FBI, en disant « Ah, je vous rends votre film », comme s'il l'avait gardé la nuit dans la ville. Hein. Bon, mais c'était limite, hein, parce qu'il l'avait promis pour 7h. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est immédiatement projeté parce que dans ce bureau du FBI, il y a bien sûr les agents du FBI, du Secret Service, mais il y a aussi le représentant du magazine Life, qui est le plus grand magazine des États-Unis à l'époque, et il y a aussi Paul Rossermull. Alors, qui est Paul Rossermull? Paul Rossermull est l'homme des basses œuvres de Hunt. Rappelez-vous Hunt, ce milliardaire, l'homme plus riche du monde, qui est un des pères de l'assassinat. Or, ce Paul Rossermull, qui est un type absolument immonde, hein, je vous dis tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il achète, alors accrochez-vous bien, 14 000 dollars la seconde. Il achète à la seconde, hein, comme on achète au poids. Pour être sûr d'acheter le film Zapruder, il dit « je vous le paye 14 000 dollars par seconde ». Et le pauvre Zapruder, hein, petit employé et tout, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous dites « oui, oui, ben, vous avez une copie tout de suite, hein, vous pouvez la garder tout de suite. Est-ce que je vous mets un ruban autour hein ?» Et Life, du coup, l'achète au même prix, il ne peut pas faire moins cher. Le Secret Service, donc Sorrell Secret Service, se réserve une copie qu'il remettra au FBI en fait. Bah, eux, il ne veut pas la garder, puisque le Secret Service lui a la copie originale non trafiquée. Par contre, pour le FBI, on lui donne une copie trafiquée, ils n'ont pas besoin de savoir. Voilà. Voilà ce qui est devenu, ce qui fait que, à 8h du matin, Zapruder n'a plus aucune copie de son film. Rien. C'est un peu con, quand même. Hein. Ce qui fait qu'il faudra attendre 1969 pour que ce film soit vu, parce que quand le procureur Garrison fera saisir le film de Life, parce que Life, il faut préciser que Life est complètement marron. C'est-à-dire que il faut savoir que Life est contrôlé par des groupes de presse qui font partie de la même mouvance d'idéologie que les gens qui ont fait coup d'État. Bon, Life n'est pas dans le coup d'État, bien sûr. Mais son patron est tout à fait en sympathie, si je puis dire. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est Hoover qui va dire à Life, il faut que cette copie ne soit jamais montrée au public. Parce que malgré le trafic, ils ont encore peur que des petits malins trouvent quelque chose. Ils sont pas sûrs d'eux. Donc, Life dit... Nous ne montrerons pas cette copie du film parce qu'elle est trop, ce film original parce qu'il est trop horrible et nous devons épargner ça au peuple américain. Tu parles, c'est surtout parce qu'il y a plein de preuves dedans. Résultat, eux, ils pensaient pouvoir le mettre dans leur coffre-fort. Alors, ils en extrayaient des photos fixes, mais qui n'étaient pas gênantes, qui ont été publiées dans la presse mondiale. Mais c'est des photos extraites du film. Mais ils refusaient de le montrer. Les chaînes de télévision ont proposé des millions de dollars pour pouvoir le passer au moins une fois. Ils ont toujours refusé. Seulement, là où ils ont été coincés, c'est que lorsque Garrison fait, en 1967-68, le fameux procès qui est illustré par le film JFK, lui, il obtient par saisie de juge fédéral la sortie du film. Et là, Live, du coup, est bien obligé de le lâcher. Ce qui fait qu'à partir de la fin 67, vu que le film a été vu par les jurés de la Nouvelle-Orléans et par la presse qui a assisté au procès, ils n'ont plus de raison de le cacher. Et là, le film sera copié, vendu allègrement, etc. Voilà l'histoire du film de Zapruder. Alors, je vous dis ça parce que tous les gens qui, sincèrement ou malhonnêtement, disent « il n'y a eu qu'un tireur, c'est de la foutaise, qu'il y a eu un complot », qui sont soit des gens qui ignorent tout de l'affaire, soit des gens qui sont eux-mêmes manipulés, tous ces gens vous disent que le film de Zapruder est le film authentique. Et là, je vous prouve que c'est faux. Donc, n'oubliez jamais ça quand vous voyez ce film.
Here's other information, Justin. From the correspondence traveling with the presidential party, it says President Kennedy apparently was shot in the head.
Revenons à l'avion présidentiel. 17h38. Air Force One atterrit à la base d'Andrews à Washington. Robert Kennedy, qui est le frère du président, enfin un des deux frères du président Kennedy, monte le premier dans l'avion et tombe dans les bras de Jackie Kennedy. Et il la tient par la main. Et en même temps, caresse le cercueil de son frère avec Jackie Kennedy et ils font une petite prière dans l'avion. Ensuite, devant les caméras du monde entier, parce que la chose est filmée par vraiment toute la presse mondiale qui attend l'avion à Washington, le cercueil en bronze du président, rappelez-vous qu'il contient en fait le corps de l'agent Alterman et non plus le corps de Kennedy, est descendu en grande pompe par la porte-avions avant de l'avion. Il est installé dans une ambulance grise qui quitte la base d'Andrews à 18h10 pour se mettre en route. Le parcours dure à peu près 55 minutes. Pour l'hôpital naval de Bethesda, où va se dérouler l'autopsie officielle. pendant ce temps-là, et là on a le témoignage de la plupart des journalistes présents, pendant ce temps-là, il y a, contre toutes les règles de sécurité, un énorme hélicoptère qui est derrière la queue de l'avion, moteur en marche, qui fait un bruit d'enfer d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde l'a remarqué, et derrière, donc, les agents du secret de service, le plus discrètement du monde, sur le côté opposé de l'avion, à l'arrière, c'est-à-dire près de la queue, par une porte à la queue, descendent le cercueil de l'agent Alterman, le petit cercueil en aluminium de la soute, mais qui enfin, en fait, contient, comme je vous l'ai expliqué, le corps de Kennedy, et qui est chargé dans l'hélicoptère. Et l'hélicoptère décolle à 18h précise et atterrit sur le toit de l'hôpital de l'armée de terre Walter Reed à 18h05. Une pré-autopsie ultra rapide est effectuée donc dans la morgue de Walter Reed par toute une équipe de médecins. Alors on ne sait pas combien ils étaient, mais on pense qu'ils étaient une dizaine ou une quinzaine, hein, des médecins militaires qui sont dans le coup. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ces médecins militaires, ils commencent par élargir le trou dans la gorge. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la gorge, on a le petit trou d'une balle et puis une toute petite incision très propre, horizontale, de la trachéotomie qui avait été faite pendant la réanimation. Et les médecins, en fait, ils élargissent, d'ailleurs en faisant un travail très salopé, parce que tous les médecins modernes qui ont vu ces clichés de cette opération disent que c'est du travail complètement salopé, et ça ne trompe pas un légiste moderne actuel. Donc, ils élargissent le trou dans la gorge pour faire croire que c'est le trou de sortie d'une balle et non pas le trou d'entrée. Toujours pour la thèse d'un tireur vers l'arrière depuis un immeuble. Ensuite, ils réalisent ensuite une série de radiographies truquées où le trou d'entrée dans le front près de la tempe de la balle qui a fait éclater l'arrière du crâne de Kennedy, et donc ce trou d'entrée est obturé par un triangle opacifiant noir qu'on utilise en radiologie pour certains masquages dans les radios, ce qui fait qu'on ne voit pas ce trou sur les radios du crâne. Et le problème, c'est qu'il y a aussi le trou de sortie qui lui est énorme. Il fait 13 cm. Alors, pour cacher ce trou de sortie, en fait, on a pu le prouver dans les années 90 par densitométrie. C'est une technique qui permet d'analyser des clichés radio et qui permet de voir s'il y a des tissus étrangers sur une radio. Et c'est une preuve judiciaire absolue, hein, ce que je vous donne là. Donc, on sait maintenant, par les analyses densitométriques de ces radios, qu'on a rajouté un morceau de crâne d'un autre corps. Donc, ils ont dû prélever sur un cadavre un morceau de crâne qu'ils ont grossièrement taillé pour qu'il fasse à peu près la forme du trou, et ils l'ont collé sur l'arrière du crâne pendant la radio, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de trou à l'arrière du crâne. Le seul trou qu'on voit, c'est celui du sommet du crâne, mais qui lui ne gêne personne, puisqu'il est provoqué par une balle qui peut venir de derrière. Puis enfin, ils font une série de photographies du corps de Kennedy, photographies classiques, pas des radios, qui seront retouchées dans les semaines suivantes, donc ils prendront leur temps, pour cacher l'orifice de sortie de la balle derrière le crâne, ainsi que l'orifice d'entrée sur le front, enfin près de la tempe. Tous ces clichés, en fait, seront remis après à la commission Warren, en faisant croire à la commission Warren que c'est les clichés de l'autopsie de Bethesda. Parce que, en fait, vous verrez que les clichés de l'autopsie de Belfisque. Alors, comment on sait qu'ils ont été pris à Walter Reed? C'est tout simplement parce qu'ils ont fait une grossière erreur. C'est-à-dire que sur ces clichés, on voit le carrelage et la pièce autour. Et tous les médecins qui ont travaillé dans ces hôpitaux ont dit ça, c'est la morgue de Walter Reed. C'est absolument pas celle de Bethesda, parce que la morgue de Bethesda n'a pas de carrelage sur le sol. Et deuxièmement, la table d'autopsie à Bethesda, Kennedy avait la tête sur un coussin en caoutchouc noir, alors que dans les photos soi-disant de l'autopsie de Bethesda, mais qui ont été faites à Walter Reed, il est simplement directement sur le métal de la table d'autopsie avec une simple serviette sous la tête, ce qui prouve de façon irréfutable que c'est fait à Walter Reed. Et alors, après avoir fait tous ces clichés truqués, il retire 70% du cerveau de Kennedy pour effacer les traces des tirs. Parce que si on a le cerveau même en miettes, un médecin légiste peut déterminer d'où venaient les balles et peut prélever en fait des échantillons de métal de ces balles qui ont éclaté dans le crâne, ce qui aurait pu prouver qu'elles venaient d'armes différentes. Le corps du président donc quitte Walter Reed en hélicoptère à 18h35, donc vous voyez que l'autopsie a duré moins de 30 minutes. Cette pré-autopsie, et atterrit à l'arrière de l'hôpital Bethesda à 18h40. Comme il atterrit assez loin pour ne pas être vu, là il y a 7 agents du secret de service qui transfèrent le corps, le cercueil en aluminium, dans un corbillard Cadillac qui va rouler pendant quelques centaines de mètres jusqu'à l'entrée de la morgue de Bethesda à l'arrière. Et là il sera accueilli, ce cercueil, par les docteurs Boswell, qui en fait est dans la conspiration, par le docteur Humes, qui lui n'y est pas du tout, qui est complètement innocent, ainsi que par deux chefs du département médical de l'armée de l'air et de la marine respectivement, qui donc réceptionnent le corps. À 18h55, l'ambulance contenant le cercueil officiel de Kennedy, elle arrive par la route à Bethesda avec Jackie Kennedy et son frère à bord, et le cercueil de Kennedy, qui contient donc le corps de l'agent du Secret Service Alterman, hein, n'oubliez jamais ça, est discrètement retiré, est discrètement déposé dans une pièce voisine de la salle d'autopsie où on retire le corps d'Alterman qui sera incinéré par la suite et qui ne sera jamais remis à sa famille. Il est considéré comme disparu. Ensuite, pendant ce temps-là, dans la salle d'autopsie, le corps de Kennedy, en attendant les officiels et la famille, est entièrement radiographié, photographié et filmé, mais cette fois-ci sérieusement, quoi, par le lieutenant Richard Lipsey, sous la surveillance du général Vell, j'ai du mal à le prononcer, qui lui fait partie du complot, c'est un haut gradé, un général 4 étoiles du Pentagone, ainsi que des docteurs Humes, Boswell, de Paul O'Connor, Donald Rebentich et Gerald Custer, qui eux sont tout à fait innocents et ne sont pas dans le coup. L'autopsie officielle, elle commence à 20h, en présence de très hauts gradés du Pentagone. Alors on estime qu'ils étaient une dizaine, mais on ne sait toujours pas de nos jours qui ils étaient, parce que chaque fois que les photographes légistes prenaient des photos, ils apparaissaient dans le champ. Un agent du Secret Service arrachait l'appareil photo des mains du légiste et exposait la pellicule à la lumière. C'est pour vous dire qu'ils voulaient garder le secret absolu des hauts gradés présents. Mais tous les témoins disent que c'était des types qui étaient des amiraux, des généraux 4 étoiles, etc. C'est-à-dire que ça devait être le gratin du Pentagone. Et j'en déduis qu'ils étaient dans le coup à coup sûr, parce que sinon ils n'auraient pas caché leur identité. Parce que légalement, ils avaient tout à fait le droit d'assister à l'autopsie du président. Donc s'ils ne voulaient pas être vus, c'est qu'il y avait des raisons. Donc l'autopsie commence à 20h, en présence donc de ces hauts gradés, des agents du FBI, James Siebert et Francis O'Neill, des agents du Secret Service, commandé par Roy Kellerman, on retrouve toujours le même, c'est celui qui était dans la voiture de Kennedy, et du photographe Floyd Reibe, sous la direction du docteur commander James Humes, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est l'homme qui fait vraiment l'autopsie, et assisté par un autre médecin. Alors l'autopsie est complètement bâclée, parce que les hauts gradés interdisent, mais vraiment interdisent au docteur Humes, de déterminer la trajectoire des balles. C'est-à-dire que chaque fois qu'il veut sonder les plaies des balles pour voir leur direction, ils disent « c'est inutile, passez à la suite ».
John F. Kennedy was mortally wounded by shots fired from a high-powered rifle. He died within an hour.
Durant la manipulation du corps de Kennedy, puisqu'on le retourne, etc., dans tous les sens pour voir les blessures, etc., il y a une balle intacte qui tombe sur la table d'autopsie. Et la balle est complètement neuve et intacte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette pièce à conviction qui a été classée CE-399 avait déjà été trouvée à l'hôpital Parkland, où elle avait été déposée par un agent du Secret Service, traître, bien entendu, qui l'avait posée sous le matelas d'un brancard où Kennedy n'a jamais foutu les pieds. C'est déjà bizarre. Et on sait par des témoins que cette balle lui avait été remise à l'entrée de Parkland par Jack Ruby lui-même. Vous voyez que le monde est petit. On reste en famille. Et alors, les médecins légistes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les pauvres? Puisqu'ils ne peuvent pas sonder les plaies, ils ne peuvent rien faire. Et ils s'aperçoivent en plus que le cerveau manque. Et alors, donc, ils peuvent que constater la disparition, entre guillemets, du cerveau de Kennedy, dont il ne reste, ils le mettent dans leur rapport, que 27,8%. Vous voyez que c'est précis. C'est-à-dire le fond du cerveau près du cervelet. Hein, c'est tout ce qui reste. Donc, ils ne peuvent rien en tirer. Ils font un premier rapport préliminaire qui, par l'examen de l'éclatement du crâne, conclut à au moins, mais ils disent au moins, hein, ils n'excluent pas qu'il y en ait plus, un tir de face dans la tête qui a fait éclater l'arrière du crâne. Et ils seront obligés dans les jours suivants de détruire ces rapports et d'en faire un nouveau où ils concluent à un tir arrière et rien d'autre. Une fois l'autopsie terminée à 23h, jusqu'à 1h du matin, le corps de Kennedy est embaumé par une équipe des pompes funèbres Gawler de Washington sous la direction de l'embaumeur Tom Robinson. Le lendemain, le samedi 23 novembre, à 3h30 du matin, donc après l'autopsie et l'embaumement, Roy Kellerman, toujours le même, confisque la totalité des photos, des films, des radios, etc. pris pendant l'autopsie de Bethesda, et les confie à l'agent Robert Book, qui était déjà dans l'avion Air Force One d'ailleurs, et qui est en même temps le chef de la Protective Research Section, la PRS. C'est la section du Secret Service qui est chargée d'enquêter sur les gens potentiellement dangereux pour le président. C'est au fond une section préventive des attentats. Ce matériel donc est copié à 8 exemplaires, 7 seront remis au FBI et au Secret Service, et écoutez bien, un exemplaire donc des radios originales, des films et des photos originales sera remis à Ted Kennedy, le deuxième frère de Kennedy. Et ce matériel, malgré le fait que Ted Kennedy le possède, est toujours inaccessible à ce jour. C'est-à-dire que Ted Kennedy, probablement par peur ou par crainte, je ne sais pas, n'a jamais voulu le montrer aux enquêteurs actuels. Alors que ce serait les preuves absolues des vrais tirs sur Kennedy. Mais Ted Kennedy refuse obstinément de le montrer. Alors, 3h56, l'agent William Greer conduit le cercueil du président à la Maison-Blanche. Le cercueil est placé immédiatement dans le salon est de la Maison-Blanche sous garde militaire solennelle. C'est une garde de Marines, en grand uniforme. Et il quitte la salle est le lendemain, donc enfin le même jour en fait, à 13h08, pour aller au Capitole. Le Capitole, c'est le Parlement américain. Sous la voûte du Capitole, qui est très spectaculaire, pour y être exposé, recouvert d'un drapeau américain, la bannière étoilée. Et ce drapeau, c'est assez émouvant, est le drapeau qui avait recouvert le cercueil de Lincoln un siècle auparavant, en 1865, après son assassinat. Et c'est Jackie Kennedy qui a voulu que le cercueil du président Lincoln assassiné, que son mari soit recouvert par le même drapeau que celui qui avait recouvert celui de Lincoln assassiné. C'est un symbole. Jusqu'à son départ pour le cimetière d'Arlington, où il va rester donc pendant 2 jours, puisqu'il repartira le lundi pour être enterré, le corps de Kennedy, des centaines de milliers d'Américains vont nuit et jour aller rendre hommage à son cercueil. Et ça a été très impressionnant. Je dis des centaines de milliers, mais c'est peut-être des millions. Hein. C'était une foule inimaginable. La file d'attente devant le Capitole atteignait 12 à 15 kilomètres. C'est pour vous dire l'échelle de la foule qui allait voir Kennedy. Parce que Kennedy était profondément aimé par les Américains et par le monde entier. Parce que les gens qui n'ont pas mon âge, j'ai la cinquantaine, ne se rendent pas compte de l'émotion que ça a provoqué dans le monde. Parce que beaucoup de gens, même d'Europe, etc., disaient « c'est comme si nous avions perdu un membre de notre famille ». Parce que Kennedy était aimé à un degré dont vous n'avez même pas idée si vous n'êtes pas de cette génération de nos jours. Dimanche 24 novembre, à 11h21, Lee Oswald, qui a été arrêté et interrogé pendant deux jours, où il n'a rien dit en fait, doit être transféré à la prison de Dallas depuis le siège de la police. Et donc à 11h21, il passe dans les sous-sols pour aller dans une voiture qui doit l'emmener à la prison, qui est juste à côté d'ailleurs. Et à ce moment-là, Jack Ruby sort de la foule et tire deux coups de feu sur Lee Harvey Oswald. Coups de feu qui le toucheront au foie, qui provoqueront une hémorragie massive et il mourra dans l'ambulance 10 minutes après lorsqu'il est transporté à l'hôpital Parkland. Même que celui où Kennedy est mort. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les deux policiers qui encadraient Oswald sont probablement complices parce qu'ils l'ont retenu et se sont écartés de lui en le mettant face au tireur. Ça se voit très nettement sur les images qui ont été filmées. Alors, lundi 25 novembre, 11h, Maison Blanche. 8 gardes de la mort, c'est-à-dire des Marines qui sont en uniforme d'apparat, qui sont les uniformes pour les hommages mortuaires. 8 gardes de la mort placent le cercueil de Kennedy sur un prolonge d'artillerie. C'est ces espèces de charrettes à deux roues sur lesquelles on mettait des canons. Pourquoi sur un prolonge d'artillerie? Parce que Jackie Kennedy, qui a organisé la cérémonie, a voulu que le rituel soit le même que celui du président Lincoln. C'est-à-dire que le président Lincoln était précédé de son cheval noir, suivi d'un prolonge d'artillerie et escorté par les chefs d'État de l'époque. Eh bien là, c'est pareil, Jackie Kennedy a voulu que ça soit identique. D'où ce rituel un peu ancien.
Mrs. Jacqueline Kennedy and her daughter Caroline are now going forward to the casket. Some people are in tears.
When John Kennedy died, the optimistic spirit of the new frontier seemed to perish with him.
La majorité des chefs d'État du monde donc accompagnent Kennedy. C'est très impressionnant parce qu'ils l'ont accompagné sur l'immense avenue qui va du Capitole vers la cathédrale Saint-Matthew. C'est un long trajet de plusieurs kilomètres et on a vu une scène unique, je crois, dans l'histoire où tous les grands de ce monde étaient là, quasiment main dans la main, à suivre le corps de Kennedy. Mais ça, vous pourrez voir ça dans les images d'archives. À la cathédrale Saint-Matthew, comme c'est évidemment un rituel catholique, puisque Kennedy était catholique, c'est le cardinal Cushing qui commence à 12h15 la messe solennelle, qui va durer une heure. À 13h15, le corps de Kennedy quitte la cathédrale pour le cimetière national d'Arlington, où sont enterrés tous les héros des États-Unis. À 15h13, le cercueil du président est placé dans la tombe et son épouse allume sur sa tombe la troisième flamme éternelle du monde. Il faut savoir que les trois flammes éternelles qui existent encore maintenant dans le monde sont la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, la deuxième flamme éternelle du monde est celle du mémorial de la bataille de Gettysburg aux États-Unis. Et la troisième flamme éternelle du monde a été allumée pour la tombe de John Kennedy, ce qui vous donne une idée de l'importance de sa mort. Et on peut dire qu'à partir du moment où il y a cette flamme éternelle, John Kennedy n'appartient plus à sa famille, mais appartient vraiment à toute l'humanité. Parce qu'une flamme éternelle, ça veut dire que cet homme appartient à tous les hommes, ce qui est un très beau symbole. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée de Dallas, qui est le crime du siècle et qui est un coup d'État. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ce jour d'infamie? Lyndon Johnson, en fait, a pris le pouvoir immédiatement. Il a annulé une grande partie des décisions de Kennedy. Il a annulé le mémorandum qui ordonnait le retrait progressif, le début de retrait des troupes américaines au Vietnam. Il l'a immédiatement annulé dans les trois jours qui ont suivi la mort de Kennedy. Il a annulé la taxation des profits pétroliers. Il a fait nommer, alors qu'il devait être envoyé et jugé, il a fait nommer le directeur du FBI, Edgar Hoover, directeur à vie du FBI, ce que du jamais vu. Je veux dire, ça c'est des procédés de république bananière. Donc, rien que par ces décisions symboliques et beaucoup d'autres d'ailleurs, on s'aperçoit que en fait, c'est vraiment un pouvoir fasciste caché qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Alors quand les gens, quand je dis fasciste, ils disent mais non, enfin l'Amérique avec sa belle constitution, son Sénat, son Parlement, oui, certes, la constitution américaine est splendide, c'est un phare pour la démocratie. Mais en même temps, ça c'est la façade. Il faut savoir que ce jour-là, le 22 novembre 1963, ça n'est pas l'assassinat d'un président qui a eu lieu, c'est un coup d'État fasciste et totalitaire dont les hommes sont restés au pouvoir au moins jusqu'en 1972, c'est-à-dire que Nixon a commencé à les mettre en douceur à la retraite, mais en fait ils restaient aux commandes, que leurs successeurs ont gardé une grande influence sur le pouvoir américain jusqu'à nos jours. Et je dirais que chaque fois qu'il y avait un risque qu'il perde ce pouvoir, comme par exemple la candidature de Robert Kennedy en 68, il est assassiné dans l'hôtel de Los Angeles où il annonce sa victoire aux élections primaires. Et on savait que s'il avait, une fois sa nomination aux primaires comme candidat du Parti démocrate, on savait qu'il aurait gagné haut la main les élections présidentielles, donc il aurait succédé à son frère au pouvoir. Donc il est assassiné dans cet hôtel. Or, ce qui est très intéressant, c'est que sur les images filmées de l'assassinat, qu'est-ce qu'on voit dans la foule? On voit deux des tireurs de Dealey Plaza qui sont dans l'hôtel. Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est certainement pas par amour pour Robert Kennedy qui sont là. Très intéressant, vous voyez, mais enfin ça, c'est un autre dossier. La même année, on assassine Martin Luther King, qui était un des grands appuis moraux de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, mais aussi de son frère, Robert Kennedy, pour les minorités raciales, pour la diminution de la pauvreté, etc., que Robert Kennedy avait promis dans sa campagne, pour continuer l'œuvre de son frère. Donc vous voyez que ces pouvoirs totalitaires occultes et oligarchiques continuent leur action encore en 68. En 1974, si je me souviens bien, je peux me tromper, l'affaire du Watergate. Beaucoup de spécialistes disent que cette affaire a été montée, c'est une sorte d'assassinat politique de Nixon, pas physique comme Kennedy, mais politique. Pourquoi? Parce que Nixon est en train de nettoyer justement le pouvoir américain et le Pentagone, mais en douceur, en mettant la retraite, etc. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu, de façon un peu moins marquée, ce que faisait Kennedy. Bon, là, c'était plus facile, parce que comme Nixon était un homme pourri jusqu'aux orteils, et marron comme pas deux, ils n'avaient pas besoin de le tuer, il suffisait de le compromettre. C'était assez facile. Et ça a continué, parce que il serait trop long d'en parler maintenant, mais je vous assure que ce qui s'est passé depuis, disons, une fin d'été 2001, suivez mon regard, ce pourrait être quelque chose sous une forme moderne et beaucoup plus sophistiquée, identique à ce qui s'est passé à Dallas ce jour-là. Je vous laisse sur ces points de suspension, à vous de réfléchir.